Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Oh non patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas Béro, volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission qui s'annonce. On clôture cette magnifique semaine. Du coup, clôture, il restera un jour, demain encore, bien sûr, dans Rotten sans flamme pour lancer les huitièmes de finale de l'Euro. Mais on est toujours dans l'analyse. Et enfin, on a notre affiche France-Belgique. Quelle affiche lundi à partir de 18h à Düsseldorf. On y sera comme d'habitude, bien sûr. Mais avant, on va passer une magnifique émission avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça, Jean-Louis ?
Ouais, en pleine forme.
Bon, on est avec le commentateur phare de l'Euro. Eh ouais, l'homme de cet Euro, c'est Christophe Dugarry. Salut Duga.
Carrément, t'es gentil. Merci.
Ah,
salut
à tous. Oui. Attends.
Alors, salut Jérôme, salut Jérôme.
Heureusement que t'éclaires les matchs qui sont un peu pourris parce qu'il y en a des matchs pourris.
Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Tu sais que j'y crois au fait que ce soit une nouvelle compétition pour les huitièmes. En plus, enfin, je sais pas si j'y crois ou je l'espère tellement que voilà, j'essaie de me convaincre.
Voilà. Tout n'était pas pourri depuis le début de l'Euro quand même.
Tout n'était pas. Ben écoute.
Non, mais les derniers jours là ont été très durs.
Arrêtez.
Ah ouais, arrêtez.
Bizarrement, c'est les nations les moins fortes qui sont le plus agréable à avoir joué.
Vive la Géorgie.
Ouais,
on va en reparler.
Eh ben on parlera de Willy Sagnol dans l'émission avec Manu Petit. Salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Salut Manu. Ouais, nickel. Bon.
Pourquoi c'est pas Manu l'homme de l'Euro ?
T'as fait quoi de beau Manu ?
Qu'est-ce que j'ai fait de beau
aujourd'hui ? Tu veux pas savoir ?
C'est vrai ?
Ouais.
Ah,
oh là là, quel vantard.
Quel vantard.
C'est dingue.
Il a
regardé la télé, il a joué à son jeu sur le téléphone. Et puis voilà. Oh, quel vantard celui-là.
Ah ouais. C'est vrai qu'il joue à un jeu sur son téléphone.
Mais oui, je sais, je
complètement
sais.
Complètement cinglé là-dessus.
Bah, ouais. Il est comme les vieux.
Et en fait, vous êtes fasciné par ma vie, les mecs. Hein.
Bah oui, quand même, Manu.
Moi, je ferai une vidéo, je vous ferai
Elle est beaucoup plus passionnante que la nôtre.
Ah, ça, je confirme.
Ce soir.
Oh, quel mythe, quel ventard.
Ce soir, Rotten sans flamme sur les huitièmes de finale de l'Euro. Celui des Bleus, ce sera lundi face à la Belgique à 18h. On va en parler dans une seconde. Et à 18h30, la sensation de l'Euro, c'est donc la Géorgie qualifiée pour les huitièmes de finale pour sa première à ce niveau. Le grand artiste. C'est Willy Sagnol, le sélectionneur français. Le foot français sera accusé de l'avoir oublié un peu vite. 8 ans depuis ses dernières expériences d'entraîneur à Bordeaux. Exactement. Mmh. À 19h, Jérôme, tu vas te chauffer autour de Cristiano Ronaldo. Le Portugal peut-il gagner l'Euro avec un tel Cristiano Ronaldo ? 32-16, appelez-nous pour débattre. L'histoire d'amour entre Duga et le Portugais, débutée hier soir, devrait continuer tout à l'heure.
Cri-cri, je suis là, cri-cri.
Oui, toi, tu es là pour le défendre, bien sûr. Ouais. Mais tout de suite.
Allez-y, on va enfoncer Duga.
Non, mais je connaissais toutes les qualités des Portugais. Je ne savais pas qu'ils étaient autant susceptibles.
Ah ouais, j'ai passé un Euro 2016 à critiquer le Portugal. Je me suis fait démonter.
C'était mérité, ils ont gagné.
Ah ouais. Bon, en plus, ils ont gagné.
On connaît notre adversaire, ça y est.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
C'est terminé. On emmène tout de suite la finale de Monsieur Taylor. Les sifflets des supporters belges également. Parce que la Belgique a montré une prestation vraiment assez inquiétante aussi.
Je prends l'accent belge.
Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. Notre force, obviously, c'est avec le foot. Leur force, c'est défendre et le contre-attaque avec Mbappé.
Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Bruggel à l'appareil. Pardon de vous déranger. Je suis producteur belge, n'est-ce pas ? J'arrive de Belgique une fois et j'en suis très intéressé par votre roman.
J'ai vécu de grands moments avec beaucoup de Belges, ici en Belgique. Goethals, c'est un Belge, mais pour moi, c'est un Charlot.
On remercie Eric Cantona.
Eh ben,
que de belles phrases, Eric
allez
Cantona.
Les Belges.
Il ne fait pas que chanter, Eric Cantona, c'est toujours c'est important de le rappeler.
C'est pas
génial. Ouais. Ce sera donc France-Belgique. Lundi, à Düsseldorf, à 18h. Faut-il avoir peur de cette Belgique qu'on a donc éliminée en demi-finale en 2018 ? On s'en souvient ? Ou est-ce que ça va être une simple formalité ? 32-16, appelez-nous pour débattre. Arthur Perrault, Mais attends,
c'est les extrêmes.
Manu, c'est infernal,
c'est soit,
en fait.
C'est soit ça sera,
non, mais
ça
je
sera
peux plus faire un
une autoroute, ou soit ça sera une catastrophe.
Et bah, c'est les débats, Manu, c'est comme milieux, ça. Qu'est-ce que tu veux?
On est là pour
faire. Je peux pas faire un ensemble de débats maintenant.
Ouais, pour qu'il lève les yeux.
Manu, non, mais
j'ai écouté Jérôme
tout à l'heure.
C'est quoi le problème? Oh là là, je flippe.
Mais je dis, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? Et ça va pas.
Non, mais c'est dingue.
Écris-les-moi les lancements, Manu. Dis-moi quel débat il faut faire.
Il y a pas.
Il y a pas que les
extrêmes, il y a aussi le milieu, tu vois.
Tu apporteras tes nuances.
Manu, fais autre chose de tes journées, je te sens sur les nerfs là.
Ben non, pas du tout.
Bon, ça va alors.
La prochaine fois, tu me répondras quand j'envoie le programme.
Vas-y,
tu diras, ça me va pas. On fait une question.
Jean-Louis Tour, envoie.
Allez, on y va. Arthur Perrault est là.
À Paderborn pour retrouver Arthur Perrault, l'un de nos envoyés.
Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur.
Donc, tu as pu voir des joueurs de l'équipe de France pour la première fois depuis donc qu'on connaît notre adversaire. Globalement, ouais, quel est l'avis des Bleus sur la Belgique?
Pour l'instant, la prudence reste de mise dans ce groupe France, tout aussi fragile que les Belges, deuxième de leur groupe, on le rappelle, visé par une bronca de leurs supporters après leur match nul hier face à l'Ukraine. Mais le défenseur William Saliba connaît bien les qualités de cette équipe.
Bien sûr qu'on est prêt à gagner, de toute façon on n'a pas le choix. Si on perd, on rentre chez nous. Après voilà, on sait que ça va pas être facile, hein. C'est une équipe très bonne avec de très grands joueurs. Donc voilà, on va pas les prendre de haut et on va tout donner pour se qualifier en quart de finale.
Voilà. L'homme à surveiller côté belge, Romelu Lukaku, une passe décisive et zéro réalisation pour l'attaquant de l'AS Rome, mais il s'est vu refuser 3 buts par le VAR. Déjà, le défenseur d'Ayo Upamecano reste méfiant.
On connaît tous Lukaku, on sait tous ce qu'il est capable de faire sur les terrains. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il est très fort physiquement et il joue pas tout seul. Ça va être la Belgique. On va pas jouer que contre Lukaku. On va pas se focaliser que sur Lukaku. On sait que c'est une arme dangereuse, mais il y a pas que lui.
Affronter le finaliste de la dernière Coupe du Monde, une perspective qui n'inquiète pas le Belge Wout Faes, qui dit ne pas avoir peur. William Saliba lui répond.
Aussi, on n'a pas peur de la Belgique, on a peur de personne. Et s'il n'a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On verra lundi et on va tout faire pour gagner.
Les Bleus ne se sont plus inclinés face à la Belgique depuis le 7 juin 2015 et un match amical au Stade de France.
Merci Arthur. Jérôme, est-ce que ça
la bagarre.
Est-ce qu'il faut avoir peur de la Belgique ou est-ce que ça va être une formalité?
Peur, oui, automatiquement. La peur te permet pas de, t'empêche pas d'être ambitieux et
il faut avoir peur de la Belgique.
Oui, oui, parce que moi je pars du principe que, bah, écoute, Manu, je dis 2-3 arguments et puis après tu me contredis si t'as envie. Le premier, déjà individuellement, la Belgique à des joueurs qui pour la plupart sont des joueurs qui jouent dans des très belles équipes en Angleterre. T'es bien placé pour le savoir parce que tu suis le championnat mieux que quiconque, la Première Ligue. Donc quand tu vois que Doku, la progression de Doku, Trossard, la saison de Trossard, De Bruyne, bon, je dis rien, mais De Bruyne fait partie des meilleurs joueurs de Première Ligue et il a souvent été élu meilleur joueur de la Première Ligue. Plus derrière, des joueurs qui sont habitués au rythme de la Première Ligue avec une grosse intensité comme Onana ou Tillmans, bah je me dis que oui, en termes de rythme, on peut être en difficulté individuellement parlant. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que la peur ou l'appréhension, ce que tu veux, Jean-Louis, hein, tu vois, la peur, c'est dans le football, on a l'impression qu'il faut surtout pas dire peur parce que alors là, ça y est, tu te fais dessus et tu arriveras pas. Pour moi, c'est ça qui te fait avancer et l'adrénaline est à son max quand tu as un peu d'appréhension, de la peur sur le match parce que le niveau de l'adversaire fait que il peut évoluer à un très bon niveau. Ce qui est pas le cas depuis le début de l'Euro pour les Belges, mais on va pas retenir que les trois derniers matchs des Belges. Le dernier en date, c'est celui d'hier, il est catastrophique, on est d'accord, d'où les sifflets des supporters, et je peux comprendre qu'il y ait de l'énervement, mais on peut aussi dire que, vu qu'il y a quand même des jeunes dans cette équipe, que l'appréhension, la pression de ce premier tour, où ils étaient limite, ils pouvaient se faire éliminer hier, qu'ils ont été rattrapés par cette pression et que ça a donné des 20 dernières minutes catastrophiques, on a l'impression qu'ils gardaient le point du match nul. Mais une fois que tu as dit ça, moi je regarde aussi ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde. Les Belges à la Coupe du Monde, ils ont été mauvais, ils ont changé de sélectionneur, ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont fait très peu de matchs nuls, et la seule défaite qu'ils ont, c'est le premier match de l'Euro contre la Slovaquie, où en effet ils se font surprendre. Donc, excuse-moi que collectivement, là je parle d'un ensemble, eh ben, ils ont montré plus de qualité que nous depuis un an.
Voilà. Parce que la France, si tu regardes tous les matchs qu'on a pu faire, excuse-moi Manu, mais on a pris beaucoup plus de claques que des matchs réussis, des matchs où on est sûr de notre force et tout ça. Parce que moi...
Pour toi, faut avoir peur des Belges. Pour toi, Manu, pas du tout.
Mais je t'excuse, Jérôme. Je t'excuse.
Ouais, mais
toi, le droit d'avoir peur. Moi, je respecte les Belges, mais alors avoir peur, mais alors pas du tout. Mais alors des années-lumière de la peur même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, t'es en train d'énumérer justement les qualités intrinsèques de cette équipe. Tu m'as parlé de De Bruyne. De Bruyne, excuse-moi, c'est un joueur exceptionnel, fantastique avec City, mais avec la sélection nationale belge, excuse-moi, je reste sur ma faim et à chaque tournoi.
C'est vrai.
Doku. Il est capable d'étincelles, il n'y a pas de souci. Sauf que depuis le début de la saison, enfin le début du tournoi, il n'est pas du tout dans le même environnement que City où c'est un jeu léché. D'ailleurs, Foden, c'est pareil avec l'Angleterre. C'est marrant parce que tous les joueurs de City, ils sont à la ramasse.
Ouais.
Voilà. Parce que Lukaku, c'est pareil. Ça fait un paquet de temps qu'on ne sait pas s'il revient à Chelsea, s'il reste en Italie, s'il revient à Chelsea, s'il va en Italie. Enfin bref. Donc moi, je vais te dire. Sincèrement, quand je regarde la défense des Belges, avec tout le respect que j'ai, avec la tenue de Tintin, parce que même si j'aime pas trop cette tenue, j'ai énormément
respect pour Tintin. C'est le maillot de la Belgique.
Il m'a fait rêver Tintin durant toute ma jeunesse.
Ça fait rêver.
Ouais, mais quand je regarde la défense belge, sincèrement, c'est une défense, c'est même pas de milieu de tableau de première ligue.
C'est meilleur que la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas.
Non, mais défensivement, je leur souhaite bien du plaisir quand ils vont avoir nos flèches face à eux.
Non, mais c'est
les
moins
Castagne,
bon.
Les Faes, les têtes, non, et mais, l'autre sur le côté gauche, vers Tangen, 35 ans. Qu'il n'avait même pu avancer.
Répond à
mais
ma question. Pologne, Autriche, Pays-Bas, on n'a pas mis un but dans le jeu. Donc là, on va se découvrir.
Toute sa vie, il a lutté avec Everton pour ne pas descendre en première ligue. Donc il faut arrêter de me faire passer les Belges comme des diables rouges. Tu vois ce que je veux dire?
Mais la Pologne, rassure-moi, tu n'étais pas inquiet.
Mais non, je suis pas inquiet.
D'accord,
la preuve.
Ok. Bon, on a failli le perdre le match contre les Pays-Bas. T'étais pas inquiet.
Non, mais d'accord, t'étais pas inquiet. Moi, je signale simplement une chose. Et d'ailleurs, j'en parlais du jeu justement avec Roland Courbis, c'est que c'est tous les tournois que l'on voit, Coupe du Monde, Championnat d'Europe ces derniers temps. Bizarrement, on s'aperçoit quoi? C'est que les sélections européennes sont loin de leur niveau et que les petites nations, qu'on vous a dit en début, justement, Dugal l'a dit d'ailleurs, en disant c'est rafraîchissant de voir toutes ces nations, justement, comme la Géorgie, tout ça. Pourquoi? Les mecs, ils arrivent, ils sont frais. Ils jouent un match par semaine avec leur équipe et leur club. Toutes les équipes européennes, la plupart jouent dans les grands clubs, ils jouent tous les trois jours, ils arrivent cramés. Ouais. Bellingham, il a fait déclaration hier en disant qu'il était cramoisi. Ouais. Donc moi, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte.
Mais...
Bon, là, on va jouer contre les Belges. Si on flippe des Belges, il faut avoir du respect pour eux, bah, il ne faut même pas y aller. Quoi. Sincèrement, moi, je les regarde, les Belges, et sincèrement, je ne vois pas où ils pourraient nous faire mal. Voilà, c'est ce que je te le dis, mais vraiment très franchement.
Bah,
par contre, nous, on peut leur faire très très mal sur le plan défensif.
En tout cas, merci d'avoir amené de la nuance. C'est vrai que moi, j'ai exagéré avec mon débat. Hein. Merci Manu.
Bah, oui.
Alors, Dugas, qu'est-ce que tu en penses? Entre les deux, tu te positionnes comment?
Non, mais moi, je suis d'accord avec Manu. Sincèrement, ces pauvres Belges, ils m'ont fait beaucoup de peine. Sincèrement, alors, moi aussi, tu sais, je suis dans la nuance, mon Jean-Louis,
oui,
mais depuis
sûr.
Le début du match, je les trouve totalement à côté de la plaque. S'il y en a un qui peut m'expliquer comment jouent les Belges, j'aimerais comprendre et j'aimerais savoir. Parce que sincèrement, les Belges, alors bien sûr, on va me parler de ces individualités, ok, très bien, pourquoi pas, mais je vois pas en quoi on peut avoir peur de ces Belges. Si nous ne sommes pas capables de battre ces Belges-là, nous n'avons rien à faire au championnat d'Europe.
C'est pas la Belgique qu'on a rencontrée en Coupe du Monde. Hein, on est d'accord.
Je vais reparler de la défense.
Là, c'était une vraie équipe.
Mais Castagne, Faez qui a joué à Reims,
oui.
Vertonghen qui a 35 ans.
Face à Dembélé, il joue bien.
Arrière gauche,
c'est vrai.
Très compliqué.
Il est tellement bon, Dembélé,
ils ont un milieu terrain avec des joueurs de foot, c'est certain. Mais personne défend dans cette équipe. Personne défend. Voilà, c'est pour moi c'est une énigme. Alors peut-être qu'ils vont changer leur système de jeu. Peut-être qu'ils vont modifier des choses, peut-être qu'ils vont être un peu moins ambitieux dans le jeu. Ça va leur servir. À mon avis, il va falloir qu'ils renforcent un peu leur défense, il va falloir qu'ils soient capables de défendre, notamment dans les couloirs. Il va falloir qu'ils défendent à deux sur nos flèches. Doku, c'est le même que Dembélé, mais vu ce qu'on met à Dembélé depuis le début de la compétition.
Oui, on pourrait mettre à Doku aussi. Ouais.
On va pas dire mieux de Doku. Je vois pas comment. Moi, je trouve que cette équipe belge, et après, je comprends les supporters belges, sincèrement, qui sont déçus. Ça fait des années, des années. qu'on leur parle, qu'on leur parle d'une génération dorée. Oui, mais la génération dorée, elle commence à être plus dorée du tout et ça gagne rien du tout. Alors, je souhaite à nos amis belges d'aller le plus loin possible et de battre l'équipe de France. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Mais si sincèrement l'équipe de France doit avoir peur, malgré les difficultés que l'on a depuis le début de la saison, si on doit avoir peur de cette équipe et ne pas gagner contre cette équipe, sincèrement, c'est qu'on n'a rien à faire au championnat.
Mais Duga,
alors, on est là pour se mouiller, on n'est pas là pour être un robinet d'eau tiède. Moi, je suis convaincu avec Manu. Et si j'avais une pièce à jouer, je nous vois vainqueurs avec deux buts d'écart. Alors, les Belges vont m'accuser d'avoir un boulard démesuré. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai trouvé tellement. Tristounés, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas d'agressivité.
Mais c'est vrai, mais Duga, ça ressemble quand même. Non, mais les gars, moi, je veux bien, moi, j'entends tout ce que vous dites. Et c'est vrai qu'avant le coup, là, on a l'impression que vous me parlez, de toi et Manu, d'une équipe de France qui est flamboyante, qui est sûre de son jeu.
Mais elle a quand même des garanties un peu plus fortes.
Mais quelles garanties?
Déjà, sur le plan défensif, franchement.
Elle est meilleure que les Belges,
D'accord. Non, mais Duga, tu as commenté les matchs aussi, Manu aussi. Moi, j'y étais sur place aussi. On a vu l'équipe de France à de grosses difficultés. Moi, je veux bien que vous me parliez de la défense des Belges. Je suis d'accord avec vous. Les joueurs, soit ils sont vieillissants, soit ils jouent dans des clubs moyens, soit ils jouent en deuxième division anglaise, ce qui ressemblait plus ou moins à la défense de la Pologne. Excusez-moi, que contre la Pologne, on les a pas mis en difficulté, quoi que dise Didier Deschamps.
On est d'accord avec toi.
D'accord. Dessus. Donc
la vérité d'un match. Ça ne veut pas dire que parce que se sont viandés contre la Pologne, qu'ils vont se viander contre les Belges.
Mais c'était la même chose quelques jours avant contre les Pays-Bas, et c'était la même chose contre l'Autriche. Donc on n'a pas mis un but dans le jeu. Et là, vous êtes en train de me dire, on va gagner avec deux buts d'écart. Ok.
Mais parce que je crois que les huitièmes de finale, et sincèrement, je crois que c'est une autre compétition.
Bah oui, l'interrupteur.
Aux compétitions qui commence et ça j'y crois
peut-être pour les
parce
Belges
que sincèrement
aussi.
Parce que bah exactement, oui, peut-être aussi, pour les Belges aussi, mais je vais te dire une chose, moi après je me fais ma propre analyse sur ce que j'ai vu depuis le début de la compétition. Après si demain matin Lukaku avec une demi-occasion il marque trois buts, et eh ben écoute, du gars t'avais qu'à te taire et tant pis pour toi, ça fait partie du jeu. C'est le jeu des pronostics, c'est le jeu de l'analyse. Moi je sais très bien comme tout le monde que cette équipe belge est capable de faire un gros match, mais sincèrement avec ce que je vois depuis le début de la
c'est poussif. Oui.
Je n'y crois pas.
C'est vrai.
Je n'y crois pas. Je crois que l'équipe de France est plus capable de faire un gros match et de se reprendre plutôt que ces Belges, parce que je les trouve à côté totalement.
Je vais vous reposer une question parce que en effet, là, je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites sur les Belges. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi notre niveau et que vu notre niveau.
Tu as raison de l'être.
Eh ben oui. Eh ben c'est pour ça que je dis que attention, parce que individuellement les Belges, et tu l'as dit du gars, sur un match, alors ça se vérifie pas, et Manu tu as raison, sur De Bruyne en sélection, sur Trossard, sur Doku, mais ces mecs là sur un match
il oublie une chose importante,
mais comme nous ils peuvent faire des différences.
On peut être
en difficulté et c'est pour ça.
Attention, tu oublies un truc important. Tu parles des individualités. À chaque fois qu'on a été mis en difficulté, et notamment durant cet Euro, c'est quand on a eu affaire justement à une équipe qui jouait en équipe, qui proposait justement une expression collective.
Les Belges ne proposent pas ça.
Je suis désolé.
Ah, voilà. C'est un argument important.
C'est basé sur les individualités.
Vous voyez ce qu'en pensez.
Et donc, avant de recevoir la tête, je vous pose la question. Vu que vous n'avez pas peur des Belges, vous pensez qu'en termes d'affiches, valait mieux jouer donc la Roumanie que les Belges?
La Roumanie, non, l'expression collective est plus importante que les Belges.
Ah, d'accord. Donc maintenant, les Roumains sont meilleurs que les Belges.
L'expression collective, pour moi, elle est meilleure.
Jérôme, on ne dit pas ça. Aujourd'hui, on est dans une analyse. Notre travail, c'est d'analyser l'instant T. Aujourd'hui, et on l'a dit, beaucoup de joueurs, de grands joueurs et de grandes nations avec des joueurs sont fatigués.
Cramés.
Moi, aujourd'hui, se taper les Roumains qui courent comme s'ils étaient 15 sur le terrain, avec une agressivité, avec une envie, avec une détermination à toute épreuve, écoute, moi, je pense que c'est pas un cadeau. Tout comme ça va pas être un cadeau pour les
Espagnols
de
jouer la
Géorgie. Donc, aujourd'hui, l'équipe de France a toujours souffert depuis des mois et des mois face à une équipe qui met du rythme et de l'intensité. Voilà, malheureusement, ces Belges, même dos au mur, ils sont incapables de mettre l'intensité. Ils doivent perdre contre les Ukrainiens. Ils doivent perdre.
Sur les 10 dernières minutes, on doit perdre contre les Polonais qui étaient éliminés.
5 minutes que je vous dis, c'est le moment d'état, moment. Est-ce qu'il faut avoir peur de la Belgique? Ethan est là, Jérôme.
Salut Ethan.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue Ethan. T'es étudiant, Ethan.
C'est ça, je suis étudiant. Ouais.
Étudiant en quoi?
Étudiant en licence information communication, et je suis en stage actuellement.
Ah oui.
Information communication, tu peux finir à RMC.
licence, ouais.
Il est un peu trop, à mon avis, il est trop qualifié, à mon avis.
Ouais. Ouais, licence, on a fait quelques études avec Ethan. Ethan, alors,
vous avez eu quelques licences, vous?
Je l'avais dans ma classe.
Ouais, licence 4 déjà. Ouais, ouais, bah licence c'est 3 ans, bah, vous le saviez pas, mais je vous le dis. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Est-ce que t'as peur des Belges, toi?
Non, je n'ai pas peur des Belges parce que vous l'avez dit, ça reste une équipe malade. Mais le problème c'est que je considère pas non plus qu'on va leur rouler dessus. Je dis pas que c'est ce que certains ont dit autour de la table, attention. Mais
Manu a dit ça.
Moi je l'ai dit aussi.
J'ai dit qu'on leur roule dessus. Donc je sais même pas pourquoi on y va, parce qu'on est sûr de se qualifier.
Tu vas leur rouler dessus. Si tu pars avec le mental de te dire que tu vas leur rouler dessus, pour moi tu pars avec un handicap déjà. Maintenant, avoir peur aussi, pour moi il y a pas nécessairement besoin d'avoir peur, parce que oui, la Belgique est une équipe malade qui a fait des trucs pas ouf en phase de poule, mais ce qu'on oublie, c'est que nous non plus, on n'a pas été incroyable en phase poule. Moi, je n'ai pas sauté de mon canapé sur les matchs de l'équipe de France. Certes, je vais parler des individualités, mais Jérémy Doku, comme Jérôme Rotel l'a dit, sur un match, il peut faire la différence, mais comme nous aussi, hein, comme Ousmane Dembélé.
C'est ça, c'est pour ça, ouais. Il y a des ressemblances avec la Belgique.
Le problème, c'est que je n'ai pas peur de la Belgique, je me méfie de la Belgique. C'est différent.
Ouais, faut la respecter.
Se méfier, ça veut dire que tu peux très bien te dire que tu vas les battre 2-3-0, mais tu peux aussi te dire, attention, c'est la Belgique, il y a Doku, il y a Lukaku, il y a tout ça. Donc, je n'ai pas peur d'eux, je tremble pas, je pleure pas à l'idée de les affronter. Mais je me dis pas non plus, bon, bah, lundi soir.
Non, mais Ethan, tu as raison. Et puis, il y a quelque chose que Manu a oublié, même Duga, c'est que ces matchs-là, et on le sait, les matchs couperets comme ça, ça peut jouer sur les phases arrêtées. Bah, oui. Excuse-moi de faire plus confiance à De Bruyne qu'à Ousmane Dembélé.
Mais Griezmann,
le grand tireur,
et nous, on a Maignan.
Ah, vous êtes sûr que Griezmann est là maintenant?
On a Maignan dans les buts.
Donc Griezmann à la place de qui? Tu peux me donner la compo? Parce que non, toi, si tu l'as, vu qu'on roule sur tout le monde, on doit être sûr de la compo, nous.
Moi, j'ai mon avis sur la compo.
D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que les Belges étaient susceptibles de passer, les Portugais, Jérôme. Mais toi aussi, hein. Moi, je suis susceptible.
Ouais. Ah, il est portugais.
Non, parce que moi, je me mets dans la peau. Alors, bien sûr que j'ai envie que l'équipe de France, elle se qualifie et qu'elle roule sur les Belges, comme tu l'as dit, Manu.
Non, mais j'ai pas dit ça, mais je veux dire ce que
je pars en Allemagne.
C'est incroyable.
Je pars en Allemagne en me disant, attention. Parce que ça se trouve, ils vont rentrer à la maison comme nous.
Mais toi, t'as peur de tout, en fait. T'es comme ça quand t'étais joueur aussi. Tu flippais avant un match.
Bah, écoute, la peur, ça m'a.
Il faut pisser.
Non, j'étais pas là, un roche quand même.
Alain, t'as rien fait.
Je sais pas, c'est toi qui me l'as dit ça, Manu. Alain.
Moi, je t'ai dit ça. Non, mais 93. Mais c'est un mytho, le type.
Pourquoi tu nous dis ça comme c'est des découvertes? Mais j'attaque pas, moi je l'adore, hein. Alain. Mais
Alain,
c'est
il
vous.
Me connaît, il sait très très bien que ça vient pas de moi.
Oui, et il connaît Jérôme aussi.
Mais voilà, tu fais que mentir, Jérôme. T'as pas compris encore qu'il passe sa vie à mentir.
Mais parce que Alain, il y a quelque chose.
Son bouquin, tu vas voir ce qu'il dit sur Zizou. Il fait que ça.
Ah, mais non, ne lance pas, Duga, s'il te plaît.
Mais Duga, attends, il y a le tome 2 qui arrive bientôt.
Bon, je voulais vous faire écouter également Thomas Meunier.
Là, je vais tout dire sur vous. Il y a pas que sur Zizou.
Meunier était aujourd'hui en conférence de presse avec les Belges et on l'a interrogé sur Mbappé. Est-ce qu'il va donner des conseils puisqu'il le connaît bien? Ils ont joué ensemble. La réponse.
J'ai bien quelques idées, hein. J'ai pas envie de tout donner en interview. Non, mais Kylian est exceptionnel, mais l'équipe de France, c'est pas que Kylian. Offensivement, c'est une armada. Et même défensivement, c'est assez exceptionnel. C'est un groupe assez complet, en fait. Et pour moi, la clé, ça va vraiment être mentalement. Beaucoup d'agressivité, aucune crainte, ballon au pied. Je pense qu'on pourra les déjouer.
Voilà, il a quelques idées pour prendre Mbappé, Thomas Meunier.
Ouais. J'ai hâte de voir Castagne face à Mbappé ou Théâtre face à Dembélé. Ouais. Vraiment, j'ai hâte de voir ça.
Et puis, pourquoi Mbappé face à Castagne? Parce que Mbappé, il joue dans l'axe.
Oui, parce qu'il va aller un peu à gauche, il va aller un peu.
Ah, d'accord.
Tu veux ma compo, Jérôme?
Ça m'intéresse. Donc, tu rajoutes Griezmann à la place de qui?
Ça va être très simple. Ça va être un milieu de terrain. Tchouaméni, Kanté, Rabiot milieu gauche.
Ah oui, ah oui.
Dembélé à droite, Mbappé, Griezmann devant.
Ah ouais, là, on est dans le ciment, là.
Ah bah, c'est les huitièmes, Jérôme. Et
là, on est dans le ciment.
Il y avait déjà le ciment contre la Pologne, après des troisièmes matchs.
Mais là, ça va être très intéressant, quand même, de voir comment ça va se passer, puisque le point faible de la défense. De la Belgique, pardon, c'est la défense. Donc, est-ce que nous, on va dans un rapport de force essayer de mettre des attaquants, une équipe assez offensive
pour poser
des problèmes? Ou est-ce qu'on va craindre justement De Bruyne, Lukaku, Doku, et qu'on va renforcer les côtés, on va mettre des milieux de terrain plus défensifs? On va voir, ça va être.
Mais on jouera jamais tout pour l'attaque, hein. A priori, hein, je.
Je pense que quand on n'aura pas le ballon, la première consigne de Didier Deschamps, c'est Tchouaméni, Kanté et Rabiot, vous faites mal à De Bruyne. Hein. Vous ne le laissez pas se mettre face au jeu, hein, les gars. Mmh, voilà.
Sûrement.
Donc déjà, bon, ça annonce la
si
couleur.
Si tu fais ça veut dire que Griezmann ne joue pas, alors, si tu fais ce milieu de terrain-là.
Bah non, Jean-Louis te dit qu'il vire encore un attaquant, donc oui, c'est-à-dire Barcola, ah, pour mettre Griezmann en faux numéro 9.
Voilà.
C'est ça?
Oui.
Et donc Mbappé à gauche.
Non, mais Mbappé-Griezmann devant, deux devant. Mmh. Rabiot à gauche, dans ce position.
Ah, c'est vrai. Et puis on l'a tellement préparé, ça, c'est génial. Ah ouais.
Alors par contre, Jérôme, je te contredis, on prépare jamais rien.
Bah non.
Donc c'est pendant les compètes qu'on découvre toujours une compo.
On prépare.
Petit bonheur, la chance. C'est vrai, Didier Deschamps, il a toujours fait ça. 2016, la compo elle tombe pendant le huitième de finale. Mmh. 2018, elle tombe au deuxième match avec Matuidi à gauche. Enfin, c'est toujours pendant la compète qu'il découvre sa compo. Hein.
Ah ouais.
Puis là,
mais c'est vrai. T'as raison. Mais c'est tellement rassurant.
Oui.
Il a dit en plus, puisqu'il a dit, on n'a pas eu de préparation cette année. On n'a pas pu préparer la compétition. Donc pas de grosse préparation. Donc.
Ah oui, d'accord. Voilà. Tiens, il y a entraînement des Bleus en ce moment. J'ai des petites scènes que nous envoient nos reporters Valentin Germain et Arthur Perrault. Sachez que Tchouaméni s'entraîne à part, il fait du fractionné. Mbappé et le masque, ça continue. Hein. Donc là, grande discussion avec le kiné pour parler de l'ajustement du masque. Il a mimé des scènes, ça continue de le gêner, etc. On n'en peut plus de cette histoire de masque. Mais bon,
apparemment, ils font plein de roulades parce que vu qu'on va leur rouler dessus aux Belges, ils préparent ça.
Et puis pendant ce temps, Didier Deschamps est sur la glacière à regarder sa tablette. Ah, il montre même
j'ai
des
peur,
images
je crois qu'il mangeait une glace. Non, c'est Bielsa ou quoi?
Bah je sais pas, visiblement là, c'est ce qu'on voit. J'ai plein d'autres infos comme ça très importantes pendant l'entraînement.
On s'en fout un peu, donc on va passer au
déjeuner ce matin, Kiki.
Ah bah je pense oui.
Ah bah c'est important quand même.
Bon. Alors j'ai pas le menu, mais si tu veux, je
vais à la selle.
Ouais.
Ah, je peux demander à nos envoyés
spéciaux. Est-ce qu'on a checké ces selles? Est-ce qu'elles sont bien dures?
À qui? On va enquêter.
À Didi.
Mais là on est en train de dériver un petit peu.
Qui mange du maïs?
Ah, du maïs, ça aide?
Bah oui. Bah oui, toi tu bouffes que de la barbaque, donc tu sais pas, tu vois.
Non, c'est fini ça, Manu. Pour l'écologie, faut plus manger de viande rouge.
Ah,
okay. Ou faut limiter.
Ah d'accord.
Mais je sais pas que vous faites
ça. Tu devrais parce que t'as limité, mais depuis quand? Depuis lundi, t'avais pas limité parce que j'étais en Allemagne avec toi.
Et j'ai mangé beaucoup de viande rouge.
Une côte de bœuf le soir.
Pas du tout.
Il y a même un moment à ton nom quand on arrive au stade.
Ah ouais. C'est des pretzels, c'est rien à voir. Bon. Dans une
viande JLT.
Le foot français.
Oui.
A-t-il oublié injustement Willy Sagnol?
On
fait entrer les accusés dans une seconde.
C'est
le meilleur français de l'Euro, Willy Sagnol, pour l'instant. A tout de suite.
Bravo.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme du soir avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. On est là encore une bonne heure et demie. Hein. Donc restez avec nous dans 10 minutes, le meilleur du Casar enchaîné, parce qu'il nous manque Julien Casar. Donc on l'aura dans 10 minutes. Et puis avant, on va faire un bon fait d'entrée l'accusé sur Cri-Cri, Cristiano Ronaldo.
Pas du tout, ça ce sera à 19h. Là on fait un fait d'entrée l'accusé sur Willy Sagnol et la sensation géorgienne. C'est vrai.
RMC Rotten sans flamme.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Et ça, ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Faites entrer l'accusé.
Première phase finale donc de l'histoire de la Géorgie. Et qualification pour les huitièmes de finale. Après cette victoire historique contre le Portugal.
Oh.
Le huitième, ce sera face à l'Espagne.
Pas dormi de la nuit.
Dimanche à 21h. Et cette qualif, c'est la conséquence d'un nouveau projet mené depuis 3 ans par le sélectionneur. Il est français, Willy Sagnol. Sans doute sa plus belle expérience de coach, c'est même sûr. Après les espoirs français, après Bordeaux pendant 2 saisons, 2 expériences qui remontent donc à 8 ans désormais. Le foot français est donc accusé d'avoir oublié injustement Willy Sagnol pendant tout ce temps. Et l'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir à tous.
L'avocat du foot français sur ce dossier, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et le juge, c'est maître Petit. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, monsieur le procureur Dugarry, ils l'ont oublié un peu vite, Willy Sagnol, le foot français?
Oui, c'est certain. Il a eu des passages éclairs, que ce soit en équipe de France, des moins de 21 ans, d'équipe de France Espoir, ou du côté de Bordeaux, où il avait réalisé une très bonne première année. Ça a été un petit peu plus délicat lors de la deuxième année. C'est vrai qu'on lui a pas donné beaucoup sa chance. Et c'est vrai que ça a été presque une surprise pour tout le monde de le retrouver avec la Géorgie. Et je pense qu'à travers ce qu'il est en train de réaliser, mais plus dans l'idée de partir en Géorgie déjà. Alors après, tout le travail et toute la réussite qui l'accompagne, c'est tout bonnement exceptionnel. Mais je trouve que quand même, à travers cette décision et ce choix, il a montré qu'il aimait le football et qu'il était prêt et qu'il était très amoureux de ce métier aussi. Parce que quand tu te dis « je vais partir en Géorgie », je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui seraient capables de le faire. Surtout quand tu as été Willy Sagnol, que tu as quand même une carrière plus qu'importante. Il a gagné beaucoup de titres, c'est une légende en Allemagne et au Bayern, bon nombre de sélections également. Donc voilà, je trouve qu'il a démontré à travers ce premier choix que c'était un passionné de football et qu'il avait envie de faire ce métier avec beaucoup de passion. Il suffit de parler avec lui pour se rendre compte que c'est quelqu'un qui connaît très très bien le football. Voilà, je pense qu'il suffit de parler 10-15 minutes avec Willy pour s'en rendre compte. Donc oui, je pense qu'à un moment ou un autre, on a peur du changement parfois dans des présidents, manque d'idées, manque d'originalité, et on se remet à prendre des entraîneurs qui ont déjà beaucoup bourlingué. Voilà, je trouve que c'est bien parfois. Alors après, Willy, peut-être qu'il sait mal se vendre, peut-être qu'il sait moins bien communiquer. C'est un garçon quand même assez, je ne vais pas dire réservé, mais qui est quand même assez calme, qui est quand même assez timide. Et on le voit d'ailleurs sur le banc de touche, ce n'est pas quelqu'un d'hystérique. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de dire tout et n'importe quoi pour se vendre ou pour se survendre. Donc peut-être qu'on a eu tendance à l'oublier. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est plus le cas. Donc, vous m'envoyez ravi. Je pense que ce qu'il est en train de faire et de réaliser avec la Géorgie, au-delà des résultats, moi, je pense surtout à la qualité du jeu qui est proposé et surtout le message qui est en train de passer. Parce que, au-delà du style de jeu qui est mis en place par cette équipe de Géorgie, qui convient parfaitement à ses joueurs, je pense que le plus impressionnant, c'est la volonté de ces joueurs de se dépasser, de se surpasser, de courir, de faire autant d'efforts les uns pour les autres. Et ça, je pense que c'est dû à un message qui est parfaitement entendu par les joueurs et apporté par l'entraîneur. Je pense qu'il faut à un moment ou à un autre, quand on voit des joueurs capables de faire autant de choses sur le terrain et de donner autant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux et l'entraîneur.
Et le meilleur exemple du gars, c'est Kvaratskhelia, qui est le meilleur joueur, qui est la star de l'équipe, qui a joué 45 matchs avec Naples cette saison et qui courait comme un malade hier tout le match.
Ouais, il était exceptionnel.
Exactement. Je pense que c'est pas possible de donner autant quand tu n'es pas autant en symbiose avec ton entraîneur, quand tu n'es pas aussi proche de ton entraîneur et quand il n'y a pas. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a presque une communion entre ces mecs-là pour donner autant. Moi, je l'ai aussi connu et on l'a tous connu quand par moment on en donne un petit peu plus avec un entraîneur parce qu'on ça se passe tellement bien, c'est tellement sain, c'est tellement clair, c'est tellement l'entraîneur dit ce qu'il fait ce qu'il dit, les joueurs le respectent. Voilà, et je pense qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer, donc je suis content et je pense que ça donnera, si on a peut-être oublié Willy Sagnol, je pense qu'il est revenu dans la tête de certains et que je pense qu'on va pouvoir avoir la chance de le voir à nouveau entraîner en Ligue 1 ou ailleurs d'ailleurs.
Maître Roten, pourquoi le foot français n'a pas oublié Willy Sagnol?
Mais parce que tout simplement, et bien sûr que c'est pas contre Willy hein, ce que je vais dire, parce que moi je le félicite, et comme l'a dit Duga, il le montre avec ce choix d'aller en Géorgie, mais même avant, hein, quand tu deviens un jeune entraîneur comme ça, après avoir passé tes diplômes, c'est que tu montres que tu étais un passionné hors pair, que tu as envie de t'investir, que tu as envie de réussir. Le seul problème, c'est que le foot français lui a ouvert les portes très, très tôt. À la fin de son diplôme d'entraîneur, on lui a donné une équipe de France de jeunes. Après, il a intégré les Espoirs. Il est resté un an parce qu'il a fait des choses qui sont pas mal en espoir et il a eu la porte qui s'est ouverte pour entraîner un club de Ligue 1 de la dimension des Girondins de Bordeaux. Alors attention, quand je dis la dimension des Girondins de Bordeaux, ça claque quand même en Ligue 1 à l'époque, quand il y a été en 2014. Hein, ils n'étaient pas dans la meilleure dynamique, mais n'empêche que...
C'était pas le Bordeaux actuel, c'était pas le grand Bordeaux non plus.
Exactement, hein. Donc c'était un peu bâtard parce qu'ils avaient été champions quelques années avant, mais l'effectif, il fallait le rajeunir. Il a fait du bon boulot sur la première année. La deuxième, c'était très mal passé. C'est pour ça qu'il est resté que 2 ans. Le foot français lui a donné l'opportunité à l'époque de c'était peut-être un mauvais choix de sa part.
ça on peut pas dire. Il y a des entraîneurs malheureusement où on leur donne même pas l'occasion de montrer leur de faire leur preuve. Ils sont obligés d'aller à l'étranger, de prendre des sélections comme Willy avec la Géorgie ou d'autres en Afrique pour montrer que c'est des bons, ça peut être des bons coachs. Là ça a pas été le cas. Derrière il est retourné en Allemagne où il a eu un rôle d'adjoint au Bayern Munich et il a eu même un intérim en tant que numéro 1 qui a duré quelques matchs. Et puis après il y a plus rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu bosser avec nous.
Oui,
mais que le téléphone ne sonne pas après avoir eu cette aventure malheureuse avec les Girondins de Bordeaux, on peut le comprendre. Dire, je pense que il voulait pas entraîner en Ligue 2, il voulait entraîner en Ligue 1. La porte, elle s'est pas ouverte. Il est parti. Et il a tenté l'expérience en Géorgie. Et là, il est en train de montrer à tous les amoureux du football français que Willy Sagnol, champion d'Europe avec l'équipe de France et qui a marqué quand même l'histoire du football français en s'imposant comme ça au Bayern Munich, était un très bon entraîneur. Parce que faire ce qu'il fait avec la Géorgie, c'est qu'il a quelque chose en lui. La gestion du groupe, le management, il emmène les joueurs. Alors, il a aussi des grands joueurs devant, hein, parce que Mikotadze et Kvaratskhelia, c'est quand même du... Et même le numéro 10, là...
Le milieu de terrain, là.
Ouais, le
petit 11.
Ouais, bah, en fait, il a 3-4 joueurs de,
un bon gardien aussi.
De classe. Il a un bon gardien, non, mais derrière, il y a une base très solide. Donc, le travail, il est mis en avant. Et comme le disait Duga, je pense qu'après 7 euros... Ouais. Exactement. Je pense que après l'euro, et ben là, les portes vont se rouvrir. Et en effet, alors peut-être pas en France, parce que tout le monde a des entraîneurs aujourd'hui.
Ouais.
Mais je pense que sa cote là, c'est bon, elle est repartie. Donc, dire que le football français lui a tourné le dos, je pense que c'est un peu dur quand même.
Maître Petit.
Alors moi,
le foot français lui a tourné le dos.
Après, c'était pas la réponse. Personne n'a jamais dit que le football français lui a tourné le dos. Ah, c'est pas ça la question.
Alors, qu'il a oublié. Si, c'était ça la question.
Ben, oublié.
Oublié, tourner le dos.
Personne lui a.
Ouais, oui, oublié, quoi. Ils ont. Ouais, enfin, j'aime beaucoup Willy. Alors, ouais. On est souvent en contact. D'ailleurs, on a encore échangé aujourd'hui. Je l'ai félicité par rapport au match d'hier et on a un rapport quand même assez proche. Mm-hmm. Et moi, je trouve au contraire qu'il a eu sa chance en France, à la fois avec les espoirs, mais également en club. Et je pense que c'est cette fameuse, enfin cette triste histoire de racisme qui est venue ternir tout ça, qui est venue se rajouter et qui a fermé définitivement les portes de Willy en France.
Ah oui, il y a eu ça
France.
Aussi, ouais.
Cette histoire, elle l'a complètement broyé avec beaucoup son image, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui ont surenchéri derrière, qui sont allés même jusqu'à l'enfoncer.
Il a fait 5 matchs avec les espoirs, les gars.
Oui, non, je sais, mais il a quand même. Ouais, mais il est resté quand même un petit moment à la Fédé. Donc, il a eu des opportunités en France. Et cette histoire est venue, en fait, tout balayer d'un revers de la main. Et donc, il a pas eu d'autre choix que d'aller s'exiler et de choisir les rares propositions qu'il a pu avoir, notamment la Géorgie. Donc, moi, je suis très content.
Le foot français l'a oublié à partir de ce moment-là.
À partir de ce moment-là.
De cette histoire et de la deuxième saison ratée à Bordeaux.
Ça intervenait à une époque, encore aujourd'hui, où il faut faire très, très attention à ce que tu peux
mais
dire.
Mais donc, on a oublié ses compétences à ce moment-là.
Bah on a jugé l'homme, on a plus jugé l'entraîneur en fait.
C'est ce que je dis. Donc le foot français a oublié les compétences de Willy Sagnol à ce moment-là.
Non, sur le coup, à Bordeaux, la deuxième année, c'est pas exceptionnel.
Rappelez-vous,
je suis d'accord.
Il y en a, ils ont eu leur chance plein de fois. Hein.
C'est moi qui dois parler, donc vous avez parlé, donc vous me laissez parler. Sinon,
il m'a fait gagner déjà, donc c'est bien.
Non, mais moi je me rappelle la conférence de presse à l'issue de la qualification historique où il arrive, tous les journalistes se lèvent, l'applaudissent, il est en pleurs. Donc j'ai trouvé en fait qu'il avait retrouvé des choses qui lui manquaient cruellement en France avec la Géorgie. Non, c'est pas simplement d'essayer de rebondir en tant que sélectionneur, mais retrouver aussi une certaine droiture au niveau humain. Il a travaillé depuis plus d'un an dans un environnement humain avec des gens qui lui font confiance et qui le poussent. Donc quelque part. Je vais pas dire que c'est pas étonnant ce qui lui arrive avec la Géorgie, si, parce que personne prédisait ce qu'allait arriver avec la Géorgie. Mais franchement, moi je trouve que c'est un juste retour des choses et j'espère que ça lui permettra justement de revenir en Europe derrière.
Bravo, oui.
Ouais, parce que pas forcément en France, parce que d'après les échos que j'ai aussi, je sais pas si t'as donné ça, il a pas forcément envie de revenir entraîner en Ligue 1.
Non, parce que cette histoire-là, je pense qu'elle a terriblement meurtri, ouais.
Bon, très bien. On verra si l'aventure continue.
Et les critiques d'anciens coéquipiers aussi, parce que ça a été
aussi. Bah, il y a eu,
ça a été dur. Voilà.
Pas si. Et les noms, mais. Ouais.
Bah, Lilian Thuram, c'était lui qui était en.
Il y a, d'autres joueurs aussi qui l'ont condamné. Après, je veux dire, je veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais rappelez-vous, dès qu'il y en a un qui est dans le collimateur de la presse et dans le tourbillon médiatique, et, parce que soit, enfin, c'est une machine à laver, quoi. Tu t'en sors plus, quoi. Donc. Moi, je connais, on connaît tous ici Willy Sagnol.
Voilà. Malcolm X, il a mal parlé.
On est quand même très, très loin de l'image qui a été dégagée dans la presse par beaucoup de personnes.
Tout à fait. Et n'oubliez pas que sur RMC, ici, c'est Willy.
Ah, ici, c'est Willy, c'était quelque chose.
Ça a été une émission menée par Willy Sagnol.
C'était
Willy.
Après Tim Dugas.
Excellent. Ouais.
Ah, t'as le choix entre il faut sauver Willy ou Arnold
Léon. Je pense qu'il est meilleur sélectionneur.
Parce qu'à l'époque, quand même, il y avait un présentateur la semaine qui pouvait pas faire plus de 4
jours. C'est ce
donc,
que je te dis.
Willy était après, là vendredi.
Après Tim Dugas.
Qui souffle, le mec de la semaine.
Ouais, parce que le mec de la.
Quand je vois l'état de Jérôme, je me dis qu'il faut qu'il souffle aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ah ben. Ouais, voilà, si vous pouvez rappeler Willy d'ailleurs,
ici c'est Willy. Willy, il est mieux en tant que sélectionneur que sur ici c'est Willy.
Ouais, c'était bien aussi, franchement, Willy. Il avait ses analyses et il élevait le débat. Voilà. Non, mais des gros invités, exactement.
Non, mais de toute façon, il avait pas
envie. Tout le monde
l'aimait, lui. Franck Ribéry,
il avait pas en deux secondes. Il avait pas envie de s'investir là-dedans. Voilà.
Il n'avait pas envie d'investir là-dedans.
Non.
Bah, la vie qu'il a fait, il l'a fait à fond. Excuse-moi.
Oui, mais d'accord. Mais tu sentais que.
Ah, écoute, il était musique.
Pas... Il n'aime pas Jérôme, les mecs plus brillants que lui, ça le dérange.
Ah, bon ça, c'était la musique d'ici, c'est Willy, là, que de souvenirs.
Ah, c'était ça?
C'était ça?
Ah,
bien sûr.
Ah, bah, on a tous oublié. Ah.
Qu'est-ce que t'es méchant, toi, c'est pas possible.
Mais on a oublié.
Bah, non, c'était... moi, j'ai pas oublié.
Oh, non, mais alors, vous, c'est fantastique, les paillettes, les ceci. Alors, Willy Sagnol, on touche pas, oui. Et Willy.
Il a fait un duo avec Djibril Cissé au début de son émission.
Oui, bah,
il aime pas les mecs francs que tout le monde aime.
Super. C'était génial. Et ben, moi, j'aimais pas. Voilà, c'est tout. Écoute, j'ai le droit de pas aimer. Après, peut-être que n'aime pas Rotten sans flamme. C'est pas
grave.
Moi, je dis juste qu'il est meilleur en tant que sélectionneur ou entraîneur.
Voilà. Très bien.
Que consultant.
Mais Jérôme, est-ce que tu aimes ton émission?
J'adore.
Ah bah oui, je
kiffe. Non mais attends, mais franchement, bah oui, à la maison, il n'y a que ça.
Ouais.
Il y a le poster de moi au-dessus de mon lit.
Dans une seconde.
Bah attends, écoute, quand tu bats des records, t'es content.
Hein ah. Lesquels, par exemple?
D'audience,
de podcast.
Voilà, si tu veux. Mais bon, c'est pas grave.
Est-ce que t'es juste content de ta carrière de joueur ou ta carrière d'animateur?
C'est un ensemble de choses.
Un ensemble,
mais je suis très fier de ce que je fais.
D'accord.
Ouais. Okay. Bah, mais je dois ça, je dois à personne, hein, je bosse.
Ouais, c'est bien ça.
Voilà.
Bah, en tant que journaliste, t'es le numéro 1.
Hein?
T'as jamais été numéro 1 en tant que joueur?
Quel mytho.
Quel mytho quoi? Et je bosse grave, attends.
Ça, j'en doute pas.
C'est un bourreau de travail.
Ouais. Consultant, t'es le numéro 1.
Ouais.
Joueur, t'as jamais été le numéro 1?
Bah, il n'y a pas eu de classement numéro 1. Le ballon d'or, les gars.
Bah donc voilà.
Écoute, personne ne peut parler. Hein, ballon d'or. Il n'y a que Cristiano Ronaldo qui peut parler.
Ah, c'est ça. Bon, très bien. Donc, on pourrait lancer le débat. Hein. Où est-ce que vous avez été les meilleurs? Dans votre après-carrière ou dans votre carrière?
Je pense que t'as un meilleur pied gauche que Cristiano Ronaldo.
Là, tu t'en fous, Manu.
Mais la perception, ça m'est complètement égal.
Mais
à partir du moment où je m'éclate, le reste, je m'en fous.
Tu t'en fous de tout, toi aussi.
Bah oui.
Toi, t'aurais pu être.
Je vais pas écouter.
Oui, mais tu fais bilan de ta vie. Tu fais bilan de ta vie quand même.
Moi, je fonce. Je suis un TGV.
Tu réfléchis jamais sur ta vie.
Je
suis pas là. Cette période-là, je l'ai réussi.
Non, mais je réfléchis. J'ai pas d'amertume ou de réflexion particulière sur mon parcours professionnel. C'est plus sur mon parcours privé. Oui. Là, j'ai une vraie réflexion. Oui. Le reste,
voilà, c'est montagne russe.
Voilà, tu vois ce que je veux dire? La vie est quand même plus importante que le boulot, on est d'accord, non?
Privée, ouais. Et j'ai mangé un carambar avant de venir.
Ça, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi tu nous
le dis. C'est pour les blagues. Tu vois mon carambar, Jérôme?
Bah non, mais tu l'as entre les dents. Déjà, lave-toi les dents.
Non, t'as pas le carambar entre les dents. Mais bon, allez, dans une seconde.
Si.
Là, on est sur 5 minutes d'analyse. Donc, on va se détendre dans une seconde avec Julien Cazard. A tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h51 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Roten sans flamme avec le meilleur moment de Julien Cazard, avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. Mais après 19h, on va parler du Portugal et de Cristiano Ronaldo.
Le Portugal peut-il la gagner avec ce Ronaldo là, 32-16 pour débattre. J'ai oublié de vous dire quand même que Willy Sagnol était l'invité de l'after ce soir. Événement.
Il a invité ce soir, Willy.
Il est dans l'after ce soir. Donc le héros de la qualif hier sera sur RMC ce soir. Mais tout de suite, Julien Cazard, il nous régale toute l'année. Et pendant cet euro, on vous propose les meilleurs moments de son Cazard enchaîné.
Le Cazard enchaîné.
Dans cette édition, nous aborderons l'équipe sensation de ce début de saison.
Ah oui.
Je veux bien sûr parler du Stade Brestois, qui va rencontrer le PSG en 8e de finale de Coupe de France. Hein, et qui vient au Parc dimanche, bah, pour ce qu'on peut appeler le match du titre, on peut le dire. Ah ben là, premier contre le troisième, il méritait bien un hommage en chanson. Stade Brestois.
Reste-toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. On n'est pas bon qu'à se bourrer la gueule. C'est vrai qu'on se murge aux chouchènes dès l'enfance. Mais quand il pleut, ça nous rend plus étanches. Francis, le blé, c'est la bonbonne et rat. Mais la bonbonne, c'est nous qu'on la boira. Notre secret pour cette ambiance magique, c'est d'être au bord du coma éthylique. Au stade brestois, plus tous ceux qui le veulent. Si t'enlèves-moi, ben tu te retrouves tout seul. Mais on s'en tape, les autres ils sont jaloux. Quand on est Bizotte, Mounier, Pierre, les Smélous, y'a ma vie, mais non, il est pas mort. Même si sur le banc, t'as l'impression qu'il dort. Jonas Martin, dites pas qu'il est cramé. 15 matchs par an, ça l'a pas fatigué. Ok, on sait, y'a des noms à la con, comme Chardonnay, Lala et le Doiron. Ils ont des blases de la France insoumise, de rouge qui tâche ou de Télé-Tubbies. Au stade brestois, y'a Roy, lui c'est le mentor, c'est le Guardiola, le club des Côtes d'Armor. C'est pas le Brice et sa bande de merlus. Pour le derby, on va leur frire le cul. Au stade brestois, plus tous ceux qui le veulent. On n'est pas bon qu'à se bourrer la gueule. C'est vrai qu'on se murge aux chouchènes dès l'enfance. Mais quand il pleut, ça nous rend plus étanches. L'OM, l'OL, Nice ou le Stade Rennais, Paris, les ch'tis, on va vous démonter. Oui, Brest, c'est moche, mais c'est la vraie Bretagne. Et cette année, c'est sûr, c'est nous qu'on gagne. Me parle pas de Nantes, eux, c'est pas les Bretons. Le Muscadet, c'est pour les vieux pochetrons. Vive Cloarec et Abaval démarque chez les Grecs. Ils aillent tous se faire voir. La la, la la, Kenny, la 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 la. La la, la la, Kenny, la 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 la.
On embrasse Eric Roy et toute son équipe.
Oui.
Eh oui.
Le Cazard enchaîné.
Donc, je voulais rendre hommage à l'équipe de notre ami, au Pierre Sage, évidemment. Quel charisme. en chanson, c'est la chanson du lundi.
J'ai trop pleuré devant Garcia. J'ai trop saigné des yeux au Groupama. Mille fois j'y ai cru pour mille échecs. Blanc s'engacé, c'est pire que Domenech. Quand tu fais jouer gros Tolisso, tu vois trois points sur la tronche à Grosso. 15 ans de honte et l'enfilage, mais tout a changé avec Pierre Sage. Quand ressuscite les gones, gone, 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 c'est fini à l'école. Gone, 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 les douleurs dans les tomes, 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 cicatrise une bonne fois. On s'en cogne. Cogne, 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 cogne. Fisting from USA. Fisting from USA. Boateng du bois, du Shakiri. Plus nul que l'Orgal et JO de Paris. Et même Clermont ont gagné sur nos terres. Le groupe Hamas, c'était la fistinière. ticket direct pour la Ligue 2. Toi t'as cru quoi qu'on est la SSE? On revit comme Grilich au bar. Et quand c'est dur, on coupe bien frappeur. Quand ressuscite les gones, gone, 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 c'est fini à l'école. Gone, 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 les douleurs dans les tomes. Tom, 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 cicatrise une bonne fois.
Merci à l'Olympique Lyonnais.
Bravo. RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Julien, que vous retrouvez pendant l'Euro tous les soirs de match dans la libre antenne de minuit et demi à 1h30 avec Thibaut Giangrande, Nico Villas, Oussem Loussaïef. Vous le retrouverez donc samedi soir. Dans une seconde, le Portugal avec ce Ronaldo, celui qu'on a vu hier. Est-ce que le Portugal peut gagner l'Euro? 32-16.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, on est là dans la deuxième heure de Roten sans flamme du soir avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. Oui, on refait l'Euro et on a hâte que ça recommence, que les huitièmes de finale arrivent. Mais on est toujours dans le débrief et là on va parler du Portugal. Et oui, le Portugal avec Cristiano Ronaldo dans un instant, Jean-Louis.
Mais pas que, parce que dans cette deuxième heure, on va aussi se poser une question qui, je pense, va passionner Manu. A-t-on conscience de l'ampleur de la crise des droits télé? Des présidents ont parlé hier de licenciements à attendre dans leur club d'ici quelques jours si l'argent n'arrive pas. 32-16 pour monter
si
sur
le club. Si vous pouvez se licencier eux-mêmes, ça serait bien quand même.
C'est ce qu'on expliquait il y a quelques semaines encore. Le désastre qu'il va y avoir au niveau de tous les salariés dans les clubs.
Exactement.
Faut faire confiance à Vincent Labrune. Et là, moi, j'en appelle aux joueurs. Justement, de chaque club, justement, à faire un effort pour essayer de conserver justement l'emploi des salariés.
On en parlera tout à l'heure à 19h30. Et puis, l'actu Euro à 19h45 avec des infos mercato à Marseille, dans le sens des arrivées. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Mais oui, le Portugal a chuté hier.
Il crée une équipe. Ça veut dire, c'est comme un puzzle. Il faut que les pièces, ils font clic.
Miko Tadze qui va la donner sur Caratiela. Dans le sur d'invention, la frappe, le but! Oh, l'ouverture du score! Le ballon perdu par le milieu de terrain portugais. C'est fini! La Géorgie réalise un authentique exploit avec cette victoire 2-0 face à l'équipe du Portugal.
Et la grosse déception, bien évidemment, vient des Portugais qui n'auront pas montré grand-chose. La chance de pouvoir jouer un match comme ça, on doit proposer autre chose. Les remplaçants portugais aujourd'hui n'ont pas été à la hauteur.
Ça, ça ne pêche pas de nada. Doucement. Il est bon, petit flan.
Non, c'est pas un mini flan. C'est un pastel mate. C'est une recette qui a 200 ans. C'est un trésor national. Un mini flan. Allez, 50 pompes.
On a donc évoqué tout à l'heure la victoire géorgienne, mais c'est aussi forcément la défaite du Portugal. Équipe largement remaniée pour le Portugal, qui était assuré de terminer premier de son groupe. Deux titulaires seulement reconduits, dont Cristiano Ronaldo, le Portugais, qui a été clairement à côté de ses pompes, à se plaindre en permanence auprès de l'arbitre. Il n'a jamais fait la différence sur le match, hein. Il a même été remplacé en deuxième période et a montré son agacement. Alors avec ce Portugal, avec ce Ronaldo-là, le Portugal peut-il aller au bout? 32-16 pour débattre, Jérôme.
Oui, le Portugal peut aller au bout. Hier, t'es le premier à le dire. L'équipe, c'était l'équipe bis. Alors Cristiano jouait, mais la plupart, à part Paulinha au milieu de terrain, qui aussi fait partie des.
Ah, ma question, c'est pas sur l'équipe bis, c'est sur Ronaldo.
Non, mais sur Ronaldo, en fait.
Est-ce que sur Ronaldo là, avec lui, tu peux gagner l'Euro?
Non, mais avec lui. Pourquoi avec lui? Mais
sur Ronaldo là, depuis le début de l'Euro, c'est pas dingue quand même.
Ah bon? Mais le deuxième match, il a été bon, rassurez-moi. Depuis la Coupe du Monde, où en effet,
même
on avait l'impression,
il s'est créé énormes occasions.
Non mais Jean-Louis, moi je veux bien qu'on critique à chaque fois, on analyse le match d'hier. Si sur le match d'hier, tu me dis Ronaldo était à la hauteur ou pas, je fais comme Duga, il a fait hier. Non, il a fait un mauvais match. Il a fait un mauvais match. Alors après, pourquoi il a fait un mauvais match? Parce que peut-être l'accumulation des matchs, parce qu'il a beaucoup joué cette année, parce que c'est quelqu'un qui se gère pas. Et en effet, à 39 ans, l'accumulation des matchs avec la chaleur et tout, ça peut jouer aussi. Et en effet, hier, il est pas à la hauteur, mais Cristiano Ronaldo, encore plus dans l'attitude qu'il a aujourd'hui, où tu sens qu'il est tourné plus vers le collectif, il est plus altruiste, ça se voit par rapport à ses stats, parce que si on reprend depuis la Coupe du Monde, c'est pareil, c'est la même analyse que j'ai sur la Belgique. Il y a eu un changement de sélectionneur et le changement de sélectionneur a amené une équipe du Portugal qui était flamboyante. Elle a tout gagné. Et hier,
Ronaldo.
avec Ronaldo, tu rigoles ou quoi? Ronaldo, ouais, il a joué la plupart des matchs du gars.
Ouais. Sur la dernière de la finale quand il est sorti. Non, en 2016, non?
Ah non, mais moi je te parle de la dernière année. Depuis qu'il y a le changement de sélectionneur, il l'a relancé. Là, sur les dernières sélections, il a très souvent été un peu moins buteur, mais très souvent passeur. Et en effet, il y a que des victoires. Alors hier, il y a une défaite, ils prennent une claque. Personne s'attendait à ce qu'ils perdent contre la Géorgie. On est d'accord. Mais c'était l'équipe bis. Il a pas été aidé. Et tu l'as dit toi-même au commentaire du gars. Quand t'as tes joueurs de côté, comme Conte Sao, et de l'autre côté, c'est Joao Félix, qui font des crochets intérieurs et qui t'envoient des missiles sur les centres, et ça touche, ça redescend plein de neige. Non, mais ça touche les nuages et ça redescend, c'est plein de neige. Comment tu veux que l'attaquant, qui est Cristiano Ronaldo, il arrive à s'en sortir? Alors, oui. En effet, il doit faire mieux. Et hier, bah, peut-être que la stratégie était pas bonne de le faire débuter. Mais franchement, moi, je peux pas passer mon temps juste à analyser le one shot de Cristiano Ronaldo sur le match d'hier, parce que j'essaye de voir plus loin. Et le mec, il a 39 ans. Il a fait une saison complète. Alors oui, il joue en Arabie Saoudite, mais bon, Kanté aussi joue en Arabie Saoudite et c'est le meilleur Français depuis le début. Il a mis 35 buts en Arabie Saoudite cette année. Il est souvent buteur et passeur avec l'équipe du Portugal. Et t'as l'impression
il doit pas jouer hier.
Non, ouais. Ah, peut-être, t'as raison. Ouais. Ça, moi, maintenant, je vous laisse parler là-dessus.
Dugas, est-ce que pour toi, le Ronaldo que t'as vu hier, le Portugal peut gagner?
Oui, bien sûr que cette équipe, elle a un potentiel. La sélection a des bons joueurs, des très bons joueurs. Même si j'ai été très déçu de la prestation de l'équipe bis hier, j'ai trouvé qu'ils ont manqué de caractère, manqué d'envie, manqué de volume de course. Je me suis exprimé hier, on l'a entendu. Après, moi, sur Ronaldo, je vais te dire une chose. Hier, j'étais un peu mal à l'aise. Voilà, j'étais un peu mal à l'aise parce que en râlant comme ça, je trouve qu'il s'est montré, tu vois, un peu dans un état de faiblesse et de doute. Tu vois, quand tu râles comme ça après tes partenaires, après l'arbitre, après les adversaires.
Mais il a toujours été comme ça, Dug.
Non, pas comme ça. Là, pas comme ça. Quand même. Non, j'étais au match, Manu, je peux te garantir que pas comme ça, c'est systématique. Dès que tu le tiens un peu, tu lui accroches le maillot, ben il tombe, il râle. Hier, c'était encore plus. Donc moi, j'ai l'habitude, et ça me fait de la peine parce que moi, j'ai l'habitude de voir un Ronaldo fort, tu vois, et sûr de lui, et qui montre pas autant de faiblesse. Et je trouve que il prend peut-être les choses trop à cœur, en voulant être à tout prix aussi fort que ce qu'il a été. Mais malheureusement pour lui et pour nous, le temps passe. Et je trouve que ça se voit malgré tout dans ses jambes. Alors, il a adapté sa façon de jouer, ça reste un grand joueur. Alors, je suis un peu mal à l'aise parce que je veux pas dire du mal de Cristiano, parce que c'est une légende, parce que c'est un joueur remarquable, et je pense qu'il va encore faire beaucoup de bien à son équipe. Ouais. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je trouve que c'est montrer certaines faiblesses aussi aux adversaires, parce que les adversaires, ils ont intérêt à ce que tu t'énerves, ils ont intérêt à ce que tu sortes du match, ils ont intérêt à te faire sortir de ta situation, de ta concentration.
Ouais, mais est-ce
Ronaldo,
que hier
c'est pas ça,
tu le comprends un peu plus par rapport à la structure de l'équipe?
Non, bah justement,
parce que s'il a joué du gars, c'est que il y a une confiance aveugle avec le sélectionneur, on est d'accord?
Non, c'est justement, tu joues avec les remplaçants, tu joues avec les mecs qui sont peut-être pas au niveau des autres. Ne t'énerve pas, non, montre une certaine force, une tranquillité, une sérénité. Il a été parfois agacé tout au long de sa carrière quand tu ne donnais pas des ballons.
Oui.
Là, c'était autre chose. Là, ce que j'ai vu hier de Ronaldo, ça m'a mis mal à l'aise parce que je l'ai senti friable, je l'ai senti perfecté et je l'ai senti pas bien. Je l'ai senti pas bien. Après, ok, je comprends quand il s'énerve parce qu'il a pas reçu un ballon, ça fait partie de son talent, ça fait partie du joueur, ça fait partie de son caractère. Ok, ça je l'ai bien compris depuis des années, je suis pas totalement stupide. Mais hier, c'était autre chose. Il y avait un agacement total. Je l'ai vu, par exemple, à la mi-temps du match. On l'a pas vu dans les caméras. Il s'en est pris, mais violemment au quatrième arbitre. Il a mis une espèce de coup de pied dans les bouteilles d'eau. Mais ça sert à rien. Ça, c'est pas Ronaldo. À 39 ans, ça doit être zen, ça doit être tranquille, c'est sûr de lui. Il arrive, malgré ce qu'il fait, qu'il soit en Arabie Saoudite, il arrive à montrer qu'il est encore performant. Donc, très bien, pas besoin, ne montre pas ça. Ça m'a mis mal à l'aise.
T'as raison sur l'attitude, et c'est bien de nous le dire, parce que t'étais sur place, t'as vu des choses que nous, on n'a pas forcément vues. Mais est-ce que tu peux pas le comprendre aussi? Parce que s'il joue le match d'hier, moi je pars du principe que c'est pour faire tourner son compteur but.
C'est lui qui l'a décidé. Si mais
oui,
joue, voilà.
Non, mais c'est lui.
Il doit pas
non,
jouer.
Mais c'est bien sûr que c'est lui. Tiens, tu sais quand je te disais confiance aveugle, qui décide que Ronaldo joue? Il y a que Ronaldo qui décide, tu vois. D'accord. Donc ouais. Lui a
décidé. Je pense que son entraîneur doit le convaincre.
Il fait peut-être une erreur hier, c'est vrai.
Et son entraîneur, comme Zizou avait réussi à le faire au Real Madrid, de le convaincre de pas jouer tous les matchs.
C'est pas faux.
Là, je suis désolé, Cristiano ne doit pas jouer le match d'hier.
Est-ce que tu comprends quand tu vois l'attitude qu'il a depuis le début de sa carrière? Alors je veux bien qu'il ait 39 ans, qu'il a 39 ans, qu'il est en fin de carrière, qu'il joue en Arabie Saoudite, mais le mec c'est un compétiteur hors pair. Et le compétiteur, le buteur qu'il a été, et encore plus cette année parce qu'il a mis quasiment 40 buts dans ce championnat d'Arabie Saoudite. Là, il a encore envie de marquer. Et depuis,
mais est-ce que être compétiteur, c'est s'en prendre à ses partenaires, à l'arbitre et à ses adversaires de manière systématique?
Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est problématique pour la suite? Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est
non,
pas l'histoire
pas,
juste du match d'hier?
Mais t'en penses, Manu?
Non, mais je pense qu'il faut
aller
les choses
de manière lucide quand même. Je comprends ce que tu dis, Duga, mais tu préférerais quoi? Tu préférerais d'avoir un joueur hors norme, Cristiano Ronaldo, qui ne dise rien, qui ne fasse rien? Moi, je préfère avoir des joueurs comme ça qui sont stimulants dans un groupe, même si ça t'agace,
Non, c'est pas stimulant ça, Manu. Non, c'est pas stimulant ça. Ça, c'est pas stimulant. Mais je sais ce que c'est que stimuler ses partenaires, montrer l'exemple comme il a toujours fait.
Oui.
C'est un exemple depuis le début de sa carrière. Voilà, moi j'ai eu des discussions avec Zizou à propos de Ronaldo. Il me dit, ce garçon est stimulant pour les autres. Ouais. C'est un exemple. Il arrive 3 heures avant les autres, il part 3 heures après.
Des choses que nous on n'a pas vues dans notre canapé.
Je te promets, Manu, que hier je l'ai senti d'un énervement. Mais je l'ai jamais vu comme ça.
D'accord,
je ne l'ai jamais vu aussi énervé.
Pour répondre à la question, Jean-Louis, est-ce que le Portugal peut aller au bout avec ce Cristiano Ronaldo là? Ben moi, la question je ne pose même pas.
Oui.
Parce qu'il a depuis 20 ans, le mec, il a cassé tous les records partout en Italie avec Messi. Il nous a enchanté et émerveillé en permanence. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est le recordman des matchs joués en championnat d'Europe. Je crois qu'il a dépassé une cinquantaine.
Oui.
Il a plus de 200 sélections avec. Alors, c'est sûr qu'il est vieillissant, que c'est il y a des joueurs qui sont dans son secteur partent avec beaucoup de retard, quoi. Dans l'impression que donc la question en fait.
Gonzalo Ramos ne jouera jamais, quoi.
Oui, c'est pour ça la question.
Il est trop loin
du
niveau.
En fonction de l'adversaire qui va augmenter, en sachant que Cristiano Ronaldo n'est plus le même joueur, est-ce qu'il serait plus prolifique et plus intéressant pour le Portugal de jouer avec un avant-centre qui propose peut-être autre chose que Cristiano Ronaldo?
Ça c'était le cas à la Coupe du Monde et c'est pour ça qu'il a perdu
problème,
ça.
Là, c'est qu'il n'y a aucun sélectionneur qui a le courage de faire ça.
Pas une question de courage, Manu. Mais aujourd'hui, il est numéro 9, il est titulaire indiscutable. Franchement, il n'y en a pas un qui arrive à sa hauteur au Portugal. Gonzalo Ramos, j'aime beaucoup. Mais Ronaldo, dans cette forme-là, parce qu'il est en forme, il te propose des choses, il ne joue pas pour sa gueule, il joue aussi pour les autres. Franchement,
moi, j'ai trouvé qu'il s'était créé quand même des occasions quasiment tous les matchs.
Et puis il est altruiste.
Exactement. Sur le but qu'il donne.
Hier, les garçons, vous avez regardé le match?
Il a été
maladroit techniquement. Et je pense que le fait de s'énerver, ça le déconcentre.
Ouais,
ça le fait un peu sortir de son match. Il a raté des gestes techniques, il a raté des choses.
Non, mais c'est
facile
vrai,
pour lui.
Sur le match d'hier.
Le problème que j'ai, moi, en fait, avec l'immense respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo, c'est que, un peu à l'image de Kylian Mbappé aussi, en équipe de France, ou même quand il est au Paris Saint-Germain, c'est que ces garçons-là vampirisent quand même beaucoup, beaucoup de ballons. Et ça devient de plus en plus facile à défendre pour l'adversaire, en fait. Donc hier, c'était les coiffeurs qui étaient sur le terrain, les titulaires quand ils vont revenir, ça va être une autre expression collective. Mais j'ai remarqué sur tous les matchs qu'à chaque fois, on essaye de chercher Cristiano Ronaldo.
Ouais, mais c'est un peu moins le cas.
En permanence. Au détriment des autres.
Oui, mais est-ce que c'est déjà c'est logique parce que automatiquement il représente quelque chose de fort. Tu as raison quand tu.
Ouais, mais même les joueurs autour de lui s'imaginent que le Cristiano Ronaldo de 39 ans va nous faire la différence comme il a fait pendant 15 ans.
Oui, mais moi je ressens moins cette année. C'est vrai. Alors. Pas encore une fois sur le match d'hier, c'est vrai, et Duga a raison. Avec les remplaçants, il a pas été dans cet état d'esprit-là, tu vois, de partage, d'échange, côté altruiste qu'on a pu voir sur les deux premiers matchs de l'Euro, d'accord? Et que, je vais te dire, alors j'ai pas vu tous les matchs du Portugal depuis la Coupe du Monde, mais j'en ai vu quelques-uns quand même, parce que j'aime les joueurs, j'aime la composition de cette équipe et tout ça.
Ah, puis ils ont des beaux joueurs.
Et je trouve...
Il y a que des beaux joueurs.
Je trouve que Martinez a trouvé... la bonne trajectoire avec
la bonne formule,
la bonne formule. Alors, avec lui, tu vois, et je le trouve moins vampirisant les ballons de ses coéquipiers, tu vois, ou à la Coupe du Monde on sentait, c'est pour ça qu'il a perdu sa place, que les mecs ils arrivaient pas à s'exprimer parce qu'il fallait absolument donner le ballon à Cristiano Ronaldo. Cette année c'est moins le cas, quoi.
On va continuer le débat dans une seconde. Philippe a fait le 32-16, mm-hmm, et il veut parler à Christophe Dugarry sur Ronaldo.
Très bien.
C'est
très
dans
bien.
Une seconde.
Avec plaisir, Christophe.
À tout.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, Roten sans flamme, Intégral Euro,
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h16 sur RMC, on continue nos débats dans Roten sans flamme sur Cristiano Ronaldo, sur le Portugal avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. Mais restez bien avec nous, on va faire un bon ring des supporters sur les
licenciements possibles autour de la crise des droits télé.
Des droits télé. Eh ben oui, on va encore parler de Vincent Labrune.
Bah, on va aussi parler de ce qui s'est dit au Sénat hier, puisqu'il était auditionné. Je sais que Manu a raté 2-3 déclarations, donc je lui donnerai tout à l'heure les déclats de Vincent Labrune sur cette crise du moment. Mais on est sur le Portugal. Avec ce Ronaldo-là, le Portugal peut-il aller au bout ? Philippe nous rejoint au 32-16 dans Rotten.
Salut Philou !
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue Philippe. Bonsoir, Philippe. Tu nous appelles d'où, Philippe ?
De là, du bord de l'autoroute.
Ah, d'accord. Bon, bah écoute.
Tu t'es arrêté au bord de l'autoroute pour pouvoir me parler.
Tu veux parler directement à Duga, alors je te le laisse, je te l'offre. Vas-y.
Bande d'arrêt d'urgence pour discuter carrément.
Bon, allez, vas-y.
J'écoute le discours. Alors, je suis pas sûr qu'il ait commenté le match, hier soir.
Si, il a commenté le match.
Oui. Mmh. Ouais, il regardait peut-être pas pendant qu'il commentait, mais c'est pas possible de dire de Dugarry, de Ronaldo qui râle. Il y a au moins sur les deux fautes, il y a au moins un pénalty, non ?
Quand il se fait tirer le maillot, tu veux dire ?
Est-ce que tu joues au football déjà ?
Ah. Non, je joue à pétanque.
Bon, ben voilà.
Ben oui, je joue au football. Tu veux pas me dire qu'il n'y a pas pénalty ?
Mais tu peux pas me dire, mais si on siffle pénalty sur ça. Si
sur le tirage de maillot, ça dure plus de 5 secondes, le tirage de maillot.
Mais excuse-moi une chose. Tu peux te faire tirer le maillot sans être obligé de tomber à chaque fois de manière théâtrale.
Moi je joue défenseur. Si je peux tirer le maillot comme ça, il n'y a aucun attaquant qui met aucune tête. Hein.
Mais dans toutes les surfaces de réparation, ça existe. Tu les regardes les matchs. et parce que c'est Ronaldo, il faut siffler.
C'est pas parce que c'est Ronaldo, c'est parce que c'est n'importe
qui. Alors pourquoi il faut siffler ? Pourquoi il faut siffler sur cela ?
Donc là, il n'y a pas pénalty pour toi ?
Non, il n'y a pas pénalty.
D'accord. Bon, bah, on parle là-dessus. Et d'entendre que Ronaldo est égoïste, s'il y a bien une année, on ne peut pas dire ça, c'est celle-là, parce que contre la Turquie, quand il décale Fernandez, il y a quelques années, jamais il fait la passe.
Qui a dit qu'il était égoïste ?
Mais il y a Manu, c'est pas Manu qui dit
Manu
ça.
Qui a dit ça.
Non, c'est pas moi, non. Non.
Ah, je crois que personne n'a dit ça. Non,
qui joue les stats, tout le monde joue pour lui. Il y a quelques années, Ronaldo jamais l'aurait décalé Fernandez.
Il dit qu'il vampirisait le jeu.
Il vampirise pas le jeu. La preuve, c'est que le match d'hier, il y a des passes où ils peuvent trouver Ronaldo dans les pieds. Ils tentent une passe à 10 mètres sur João Félix et on perd la balle sur des actions juste parce qu'ils veulent pas jouer avec lui.
Non, mais Philippe,
t'as aimé le match de Ronaldo alors hier?
Je l'ai pas aimé particulièrement, mais il peut faire quoi de plus dans l'équipe là comme elle joue?
C'est vrai que là, parler plus globalement sur le match d'hier, t'es assez d'accord avec nous sur le fait que l'équipe du Portugal t'a pas plu, quoi.
Ah, mais le jeu était horrible. Après, on a un joueur qui met en route la Géorgie au bout d'une minute trente à faire une passe en retrait pour personne.
Ouais.
À part l'attaquant géorgien, ça aide bien l'équipe. En deuxième mi-temps, il donne un pénalty, ça fait 2-0. Maintenant, il a fait tourner, il a voulu faire jouer tout le monde pour gagner tout le monde dans la compétition. C'était peut-être pas une bonne idée. Mais la question, c'est, puisqu'on parle de Ronaldo, qu'est-ce que peut faire Ronaldo de plus hier avec l'équipe qui joue ?
Duga, en fait, nous parlait, je parle à ta place, Duga, mais Duga, il nous parlait de son attitude et en étant sur place, qu'il a vu des choses que nous, on n'a pas forcément vues et qui ne le plaisaient pas. Est-ce que toi, t'as pas noté un changement d'attitude sur le match d'hier ?
Est-ce que toi, t'as trouvé qu'il râlait plus que d'habitude ou pas ?
Moi, personnellement, c'est la première compétition où je vois qu'il joue altruiste, il décale les gens, il joue un peu le jeu d'équipe. Je pense qu'hier, il a joué le match, il s'est dit « Bon, j'ai fait croquer tout le monde depuis le début, c'est mon tour de marquer.
Ouais. »
Il a vu qu'il ne marquait pas son but, il s'est agacé. Maintenant, l'équipe comme elle était composée, ne l'a pas aidé. Martinez, maintenant, ça va pas être le nouveau sélectionneur à la mode. Quand je vois que le match de la Turquie, même la République tchèque, il nous fait des changements à la 89e minute. J'attends rien de lui. Je sais même pas pourquoi ils l'ont pris lui, mais bon, on est obligé de faire avec. Je comprends pas quand t'as des joueurs.
Et pour toi, il y a pénalty pour la Géorgie ou pas?
Oui.
Ah oui. Oui, il y a pénalty.
En plus, je suis pour Porto, c'est un mec de Benfica.
Pour moi, il n'y a pas pénalty. Non.
Sur l'action, on voit bien que son pied touche. Après, on voit qu'il reprend en arrière.
Je suis d'accord avec Dugas.
Oui, c'est pas le contact qui fait tomber, c'est ça que tu disais.
Oui, c'est là qu'il joue le jeu. Mais c'est là que c'est étonnant. Comment la VAR, là, intervient, il va voir alors qu'il ne va pas voir pour
Ronaldo. On voit le joueur retenir justement son pied parce qu'il sait qu'il va y avoir le contact, donc il sait que il y va pas à fond. Donc son geste, il le retient.
Là, Philippe, c'est vrai que t'as pas tort, parce que si tu vas voir la VAR,
si on va voir la VAR pour chaque tirage de maillot sur corner, il y a plus de matchs.
Dans ce cas-là, il y a aucun attaquant qui décolle jamais du sol sur les corners. Alors
moi, franchement,
et sûr que si l'intérêt, moi je trouve que Cristiano Ronaldo, il va plus haut que tout le monde, on le sait. Là, sur les corners, je trouve qu'il reste statique. Il doit se démarquer du marquage. Il doit se sortir du mec qui est en train de le tenir.
Il a tenu le maillot pendant plus de 5 secondes. C'est pas possible.
Oui, mais il va chercher cette faute, en fait. Et c'est parce qu'il fait pas la différence dans le jeu qu'il va chercher ces fautes-là. Et c'est ce que l'arbitre voit. C'est pour ça qu'il veut pas rentrer dans ce jeu-là.
Après,
mais bon, il y a un moment, il y a une VAR normalement qui est censée analyser.
Oui, mais c'est pas des contacts aussi nets que le pénalty pour la Géorgie.
En essayant d'être objectif, moi, je pense, du moins, ce n'est que mon avis. Encore une fois, et c'est pas forcément celui de Manu et celui de Dugas.
C'est toi le patron.
Mais je suis comme Philippe. Je pense qu'il y a pénalty sur Ronaldo.
Ah oui.
Voilà.
C'est le conditionnement que comme il fait que râler pendant 20 minutes, et que l'arbitre veut vraiment pas faire un pas vers lui parce qu'il a compris que Ronaldo faisait plus râler.
C'est possible, mais sauf que. L'arbitre, il doit faire. Je suis désolé, la qualité d'un bon arbitre, c'est pas forcément de regarder l'attitude du joueur, même s'il t'énerve, il t'excite, tout ce que tu veux. S'il y a faute, il y a faute. Tu vois, donc après,
je pense que l'arbitre, il le voit qu'il y a des. Que ça s'agrippe le maillot. Mais c'est pas une erreur manifeste parce que Ronaldo aussi, quand t'es dans un duel, l'attaquant comme le défenseur, les deux attrapent le maillot,
sur cette action-là, c'est pas possible.
De toute façon, on va pas y passer sans
s'étendre. Non, mais Dugarry, il a jamais aimé Cristiano.
C'est pour ça, voilà.
Il fait plus de ongles que lui, c'est pour ça qu'il a jamais aimé.
Non.
Allez, merci beaucoup, Philippe. Excellente soirée.
Écoute,
obligado.
En tout cas, le Portugal n'a pas été à la hauteur hier. Et la Géorgie, on a parlé de Willy Sagnol. Et bah oui, Willy Sagnol, il a donné une leçon au Portugais sur le match d'hier. Bravo.
Effectivement. Moi, je salue la nouvelle maturité de Dugas. Là, normalement, il finit pas en disant bonne soirée.
Comme Cristiano,
il est apaisé.
Il devient plus humain, du gars.
C'est le fait d'avoir une nouvelle compagne, de s'être marié ou pas.
Tu sais ce qui est marrant
en Allemagne aussi, donc
d'avoir signé le divorce.
C'est de voir toujours
l'apaiser.
Oui, vas-y, du gars.
Ce qui est marrant, c'est de voir toujours le verre à moitié vide. C'est-à-dire que tu me reproches de pas avoir dit qu'il y avait pénalty. Par contre, quand je dis qu'il y a pas pénalty pour les Géorgiens, ça personne. Il n'y a aucun Portugais qui m'a dit du gars, t'as raison, il n'y avait pas pénalty. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou, c'est comme dans le sens qui te convient.
Pourquoi hier t'as reçu des messages, des textos,
c'est pas sur les réseaux sociaux. Je suis pas là sur les réseaux sociaux. J'ai compris pourquoi. Mais j'adore nos amis portugais. Je pensais pas qu'ils étaient aussi susceptibles.
S'il y a bien une nation qui est susceptible.
Mais on est tous susceptibles.
Chauvin, ça c'est bien. Susceptible, ça l'est un peu moins.
Vous, oui, moi, qui est plus que l'autre.
Vous les 98, c'est vrai. Non, Manu, vous les 98, c'est vrai, vous êtes susceptibles.
Antoine, arrête de lui faire répéter des trucs.
Non, mais il a raison, il a dit une demi-phrase sur Zidane, il lui en veut pendant 10 ans.
C'est vrai, j'ai juste dit la vérité. Laurent Blanc, je l'ai critiqué quand il a fait une dinguerie au PSG. Il m'en veut.
On parle de Jérôme, surtout.
C'est un truc de fou, quoi.
Non, parce que je dis que la famille 98, c'est vrai que la plupart, vous êtes très susceptibles. Regarde, Didier, il parle plus à Dugas alors que.
bon, il a rien dit, du gars. Sur Didier.
C'est vrai, ça. C'est vrai qu'il est susceptible, lui.
Manu, Zizou, il t'a pu parler pendant un moment. Susceptible. Je sais pas, t'avais rien dit.
Moi, je suis grave susceptible, moi.
Ouais, toi, oui. Ouais, mais non, mais il y en a moins, quand même. Il y en a qui sont moins susceptibles. Charbot, par exemple, il est pas susceptible avec tout
toi,
ce que tu lui mets.
Toi, t'as quand tu punis, Manu.
Ouais.
Ah, d'accord. Là, c'est Antoine. Et tu dis de pas répéter ce que dit Antoine, et toi, tu répètes sans réfléchir. Non, mais c'est incroyable, quoi.
Mais si, il adore quand le punis. Écoute,
tu sais, il y a un proverbe normand qui dit, en Normandie, pourquoi voilà. Tu rigoles encore?
Ah, parce que tu sais même pas ce que tu vas dire. Si.
Il connaît avant. Mais si. Non, en
fait, je vois ta tête. Il sait pas. Et là, il est en train de réfléchir. Il se dit, attends, j'allais dire une connerie.
Allez, vas-y.
Je vais en inventer une.
Je suis susceptible.
Donc, bon, alors, proverbe vas-y. Normand. Alors, okay.
Vas-y, hein, le proverbe.
On n'est pas susceptible, mais on se souvient.
Ah ouais.
Wow.
Ah ouais. Alors là,
c'est un proverbe au dormant, ça.
Attends, alors là, c'est Gandhi. Là, c'est Gandhi.
On n'est pas susceptible.
C'est vrai, okay. Vous venez des régions.
On n'est pas susceptible, mais on est rancunier, gars. En gros, c'est
ça. Et ce proverbe.
On est rancunier, on se souvient. Voilà.
Il sort d'où, tu l'as?
Ah, c'était hein, rancunier.
De quelle ville en Normandie?
Carambar.
Lequel?
Manu, garde de l'énergie parce que dans une seconde, c'est pour toi. C'est pour licenciement moi. Dans les clubs. Voilà, est-ce qu'on a conscience de l'ampleur de la crise des droits télé en ce moment? Les présidents ont parlé hier devant le Sénat. Vincent Labrune également. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h30 sur RMC, on est là, on est bien, dernière demi-heure de Rotten sans flamme, et ça va être chaud, je vous annonce, restez bien avec nous, on est là jusqu'à 20h, on va parler des droits télé de certains clubs qui seront obligés de licencier, apparemment, on va entendre certains présidents qui se sont...
manifester,
expliquer devant le Sénat. Sénat avec Manu Petit, on est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour, restez bien avec nous, encore une demi-heure de la plus grande émission du PAF.
Il y aura pas de quiz tout à l'heure, mais j'ai des infos mercato à vous donner, notamment à Marseille, ça bouge pas mal, donc restez avec nous à 19h45, je vous donne ces infos. Mais donc tout de suite, la crise continue.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors hier, on a donc entendu Vincent Labrune publiquement. C'est rare ces derniers temps. C'est même rare tout le temps avec Vincent Labrune. Il était auditionné par le Sénat dans le cadre de la fameuse mission d'information sur l'arrivée de CVC dans le foot pro français. Le président de la Ligue s'est défendu sur plusieurs sujets, sur l'arrivée de CVC en détail. Vous avez tout ça sur rmcsport.fr. Hein. Je vous ai noté juste quelques déclats importantes, notamment sur sa rémunération. Il s'est expliqué sur son bonus exceptionnel, dit-il, pour avoir levé 1,5 milliard, donc ça se justifie, ça fait partie des prix du marché pour ce genre de mission accomplie donc par le président de la Ligue. Alors il s'est aussi défendu en disant que il n'était pas tout seul à valider ce genre de décision, il y avait aussi tous les présidents de club en disant je ne dirige pas seul, je dirige avec les autres présidents. Sur la crise des droits télé, c'est ce qui nous intéresse en ce moment, un peu plus que CVC, alors on passe de la pommade à Canal en disant ça a toujours été ma priorité de renouer le dialogue avec eux. Encore une fois, avec Canal, il a mis en avant les autres présidents de club en disant qu'ils ne décidaient pas seuls. Et puis, il a dit on va faire d'une contrainte une opportunité en prenant notre destin en main, en créant notre propre média, en espérant une solution positive dans quelques jours. Et je voulais vous faire écouter, avant de donner la parole à Pierre sur le ring des supporters, des présidents de club qui ont été aussi auditionnés, les présidents influents à la Ligue, notamment sur ces questions de droit télé, Laurent Nicolin de Montpellier et Valdemar Quita de Nantes. Il explique la situation actuelle pour leurs différents clubs.
On a eu un conseil d'administration vendredi dernier. Le président de la Ligue nous a dit d'attendre 10-15 jours, 3 semaines et qu'on y verrait plus clair. Après, ce qui est sûr, on en a parlé à Valdemar encore tout à l'heure, bon, il y a des options qui sont en place, mais il y aura peut-être d'autres options que les clubs feront entre présidents où on se verra et peut-être qu'on peut partir sur d'autres choses ou pas d'autres choses. Il y a plein de choses qui peuvent être faites ou pas faites.
Je ne suis pas sûr de comprendre.
Bien, c'est très simple, je pense qu'il va falloir licencier des gens si ça ne va pas.
Dans vos clubs?
Ah ben oui, on ne peut pas faire autrement. Il faut pas tricher. Et quand je l'ai dit dans la presse, je suis inquiet parce que je suis responsable. Comme Laurent a dit qu'il est inquiet, c'est parce qu'on est des responsables, parce que c'est notre argent. C'est l'argent que nous avons travaillé, que la famille travaille pour le faire. Mais on a toujours honoré. Maintenant, on arrive dans une situation beaucoup plus délicate.
Voilà, il y aura donc des licenciements si la crise continue, dit Valdemar Quita. Et donc, c'est les présidents qui nous expliquent que Vincent Labrune leur a demandé encore de patienter quelques jours. Est-ce qu'on a conscience de l'ampleur de la crise? Pierre nous rejoint sur le ring des supporters.
Salut Pierre.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis.
Bienvenue Pierre. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses?
Bah écoute, moi je trouve que je comprends rien au football français, parce que je comprends la crise et pour moi elle est majeure, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas d'arrivée d'argent, c'est impossible de gérer. Mais je vois des clubs, mon club, hein, comme Lyon ou comme Marseille, ils font quand même du petit mercato, tranquille, normal. Non, moi je suis très inquiet. Je pense que la meilleure décision à prendre, c'est de virer Vincent Labrune pour mauvaise gestion, pour tout, même si évidemment c'est pas le seul qui décide, c'est comme celui qui représente tout le monde. Donc c'est comme l'entraîneur quand il se fait virer, au bout d'un moment c'est pas toujours lui qui attend, mais c'est quand même lui le fusible, donc c'est la première chose à faire. Moi j'espère que ça permettrait de ramener Canal dans le centre du projet de la diffusion de la Ligue 1, parce que c'est pas le tout de vendre, hein. La chaîne qu'ils vont faire, c'est bien, ils vont faire une chaîne du jour au lendemain, sauf que quand tu sais pas diffuser du football, c'est ce qui est arrivé depuis 5-6 ans avec Mediapro, avec Amazon dernièrement, et ben personne regarde parce que c'est trop compliqué, on sait pas à quelle heure c'est les matchs, même moi ça me saoule, tu vois, je regardais vraiment pas tous les matchs alors qu'avant j'étais assidu sur ça. J'ai tendance à plutôt regarder le rugby parce que c'est simple. Je sais qu'il y a leur stage, je sais que c'est sur Canal, je sais qu'il y a le gros match.
Oui, mais Pierre, excuse-moi, je te coupe, mais tu dis couper la tête de Vincent Labrune et Canal va revenir dans la danse. Mais tu crois vraiment que Canal, ils sont pas là à discuter des droits parce que c'est Vincent Labrune? Mais moi, je te dis que non.
Moi je te dis
qu'ils sont tellement braqués, Canal, contre tous les dirigeants du football français. Et là, j'en veux au président. Vincent Labrune en fait aussi partie. Forcément, il est président de la LFP. Mais par contre, tous les autres présidents qui ont tourné le dos à Canal il y a quelques années et qui sont encore là à la tête de leur club, bah c'est peut-être pour ça que Canal veut pas y aller. Et ces présidents là, eh ben si, mais attends, mais tu crois, mais
venir de la guerre dans la vie, c'est pas l'ego, c'est l'argent. Et quand ils étaient prêts à mettre 700 millions il y a encore 2 ans ou 3 ans pour avoir les droits,
c'était il y a 4 ans.
4 ans, ils vont y aller. Il y a 4 ans, quand aujourd'hui ça vaut 400, ils vont y aller, Jérôme, je te jure qu'ils vont y aller.
Et ben ouais, mais à l'époque, Vincent Labrune n'était pas président de la LFP.
Alors, il était vexé.
Oui, non, mais d'accord. Non, mais c'est ce que je te dis. Donc, après, peu importe, il y a eu Téléfoot, la chaîne Téléfoot, là, Mediapro. Après, il y a eu, l'arrivée d'Amazon. C'était génial. C'était fantastique. Et depuis, le discours, il n'existe plus avec Canal. La preuve, c'est que le discours était ouvert avec Bein et on avait sorti les infos il y a quelques mois. Maintenant, t'as l'impression qu'ils ont fait machine arrière Bein, à savoir pourquoi? Apparemment, il se dit que il y a eu aussi à la tête des dirigeants de Bein des tensions avec les représentants de la Ligue. Donc c'est pour ça que ça a pris du retard. Donc là, franchement, je vais te dire, on est dans une merde noire. Et que la seule solution, en effet, c'est d'essayer de recréer une chaîne, comme l'a dit Vincent Labrune. Après, moi, j'en sais rien. Je dis pas que la solution. Oui, mais je te dis pas que c'est bien. Je dis juste que couper juste la tête du président de la Ligue aujourd'hui, mais je vois pas à quoi ça va servir.
Moi, je te l'ai fait de l'histoire autrement. Tu coupes la tête de Labrune.
D'accord, et tu mets qui?
Tu fais un monde honorable, justement, en mettant quelqu'un d'autre qui est capable de discuter avec tout le monde. T'expliques à Canal Plus qu'aujourd'hui, t'es prêt à leur lâcher 400 millions pour qu'ils redonnent un petit peu les couleurs au football français.
Et Canal, qui va présenter ça? Qui va présenter ça, les 400 millions?
Encore une fois, quelqu'un qui n'est pas clivant, comme moi, j'ai pas de don à te donner, mais en ce cas, quelqu'un qui n'est pas clivant, comme
oui,
aujourd'hui.
Oui, mais le mec qui va.
Jean-Michel Aulas, tiens, tu veux un
mais
mot?
Jean-Michel Aulas, mais il a craché sur un Canal il y a quelques années, les gars, mais.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'étais chez Marc Lyonnais.
Mais ça a été un des.
Fois, il a de la pommade,
mais ça a été
fois,
un des pires, c'est pour ça que Canal s'est retiré. Mais vous oubliez. Mais non, mais vous oubliez ce que Jean-Michel Aulas, il a fait il y a quelques années, et aujourd'hui il a le bon rôle, parce que même à Lyon il va t'expliquer que ouais, t'extors ceci, t'extors cela, alors que si le club était dans la panade,
c'est aussi... Mais tout le monde le sait, ça, Jérôme, à Lyon on n'est pas fou.
Par contre,
Aulas, il mettait pas de la pommade à Canal, mais à chaque fois
mais s'il avait là, mis de la pommade Canal, avec mais Aulas, c'était le représentant.
Allô.
Aulas, c'était le représentant de tous les présidents. Donc arrête de me dire que Aulas n'est pas responsable aussi que Canal s'est retiré, du moins qu'ils ont
mais
donné.
Mais tout le monde est responsable.
Vas-y, Duga.
Le mec chiant, c'est vas-y, Christophe.
Attends, Pierre, oui. Vas-y, Duga.
Non, mais excuse-moi, Jérôme, à t'écouter, il n'y a que Labrune qui peut rester en poste. Excuse-moi.
Ah, mais non, je ne sais pas ce que je dis.
Non, mais si, à t'écouter, qui va prendre sa place? Mais tu secoues un arbre, il y a un mec qui tombe pour prendre sa place. Il n'y a que Labrune
c'est vrai.
Compétent c'est
vrai.
Pour diriger
non,
la Ligue. Bon,
non, je ne sais pas ce que je dis. Je dis juste que ce n'est pas la solution.
Si c'est un peu ce que tu dis. Deuxième chose, mon poulet, j'ai écouté tout ce qu'a dit Labrune, il y est pour rien. Tout va bien. Toutes les décisions qu'il a prises, elles sont parfaite. Ouais. Aucun mea culpa.
Ça, c'est pas vrai.
Tout est bien, tout est génial. Là où je te rejoins, et je vais faire un pas de ton côté, Jérôme, c'est que tous les présidents de club, tous les présidents de club, presque tous ont leur responsabilité à un moment, et c'était la Brune qui n'était pas président de la Ligue, donc ça c'est à mettre dans son jardin. Ils ont fait à un moment un choix financier, il y avait de l'argent qui était garanti par un ancien diffuseur, et Canal+, qui avait une partie variable. Ils ont fait le choix de se mettre à dos Canal+, et de choisir un autre diffuseur, plutôt que d'entretenir des bonnes relations avec Canal. Aujourd'hui, il se passe ce qui se passe. Le club est en galère. Mais mon poulet, chacun doit jouer son rôle. Le rôle des propriétaires et des actionnaires, c'est de mettre la main à la poche. Le rôle, c'est ça.
Mais c'est pas possible.
C'est le rôle des actionnaires. Mais pourquoi c'est pas possible?
Parce qu'ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. C'est pour ça qu'ils vont s'orienter vers des licenciements. C'est ça qui est dramatique.
Manu, attends, laisse-moi finir et après je te laisse parler. Le rôle des actionnaires, c'est que ce n'est pas que d'engranger. C'est que quand ça ne va pas, tu mets la main à la poche. Les présidents sont responsables des salaires astronomiques qu'ils ont donnés. Ah oui. Et quand j'entends M. Kita m'expliquer qu'il va falloir virer du personnel, mais quelle honte. C'est-à-dire que c'est plus facile forcément de virer le magasinier qui gagne 1500 ou 2000 euros par mois plutôt que de reconnaître que tu as surpayé des joueurs qui n'ont pas le niveau. Mais c'est une honte d'avoir ce genre de discours. C'est-à-dire que tu es dans une période catastrophique, tu es dans la mouille. Et la seule truc que tu trouves à dire, c'est qu'il va falloir licencier du personnel. Mais c'est une honte de dire des choses comme ça. C'est certainement une réalité. Mais quelle honte. Mais vous avez trop payé des joueurs qui ne vous ont rien apporté, qui ne vous ont rien donné.
Ah, c'est pas faux,
et
ouais.
Maintenant. Mais voilà, aujourd'hui la situation. Chacun est responsable. Donc chacun doit prendre ses responsabilités.
Mais c'est pas faux,
t'as
raison.
Et les premiers, c'est les présidents.
T'as raison, Dugas. Voilà. Mais moi, quand je te disais, et là je donne la parole à Manu, mais quand je disais que la solution à court terme, à très court terme là, vu que là on est dans l'urgence, c'est pas forcément de couper la tête de Vincent Labrune pour que tout s'arrange, parce que les présidents sont aussi responsables.
Tu as tort, Jérôme.
Ah non, mais peut-être que j'ai tort.
Tu as tort, parce que si on veut renouer le contact et le dialogue un temps soit peu avec Canal, il va falloir changer les hommes. Pour moi, c'est aussi simple que ça, parce que c'est allé beaucoup trop loin avec Canal.
C'est vrai.
Et sincèrement, depuis la pandémie, déjà l'équilibre économique était bancal au niveau des clubs professionnels français. Ça n'a fait qu'empirer après la pandémie. D'ailleurs, on l'a vu. Ils n'ont pas voulu partager le gâteau. Certains ont voulu récupérer les plus grosses parts. Déjà, on voyait déjà les hyènes s'entretuer entre eux, alors qu'en fait, on avait besoin de solidarité justement pour pouvoir rebondir. Aujourd'hui, quand on voit le pacte avec le diable jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin de tes jours, en sachant que dans le contrat, il y a des clauses qui stipulent qu'en cas de baisse des rentrées commerciales, la part de CBC augmente également. Donc en fait, c'est même pas qu'ils sont dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que tu regardes partout, la seule solution aujourd'hui, c'est Canal. Donc si tu veux vraiment renouer le contact avec ton télédiffuseur qui a aidé le football français à se développer pendant 40 ans
et
à
les financer... Il faut faire partir qui est alors?
Mais déjà, les présidents, faut qu'ils arrêtent de penser que l'argent.
Les présidents, ils resteront. T'es d'accord? Ils vont pas partir.
J'ai énormément de respect pour certains présidents parce que, comme m'a dit Valdemar Kita, c'est leur argent qu'ils ont mis sur la table. Ils ont construit quelque chose de pérenne et tout. Mais aujourd'hui, leur vanité. En fait, on voit la vraie nature de beaucoup de gens dans le football français aujourd'hui.
Mais t'as raison.
Ils sont en train de payer justement leurs comportements qui sont scandaleux depuis des années.
Mais en fait, le truc, c'est que moi, je comprends les présidents. T'as raison. Moi, je respecte. C'est leur argent. Moi, je suis personne pour
la
dire.
Il doit partir. Tu renoues le contact avec Canal. Il doit partir. Tu ne peux pas.
Mais je te dis juste que si Labrune s'en va, et peut-être que c'est la solution. Ça ne suffira pas. Il faudra qu'il y ait d'autres têtes.
Un médiateur. Parce que je ne pense pas que des gens de la Ligue aujourd'hui, même des présidents de clubs de Ligue 1, soient en mesure de pouvoir parler avec Monsieur Sarabia, qui est le président de Canal.
Sauf que
quand
j'entends les présidents, et là je suis d'accord avec Dugas, c'est que c'est bien beau de nous dire oui, là on n'est pas bien, on va faire les licenciements. Mais déjà. Faites votre mea culpa.
Demandez aux joueurs.
Assumez les conneries. Quand j'entends Valdemar Kita parler comme il parle, c'est licenciement. Donc la secrétaire va être virée ou ceci, cela. Mais t'as vu, toi,
les licenciements des combien ça t'a coûté les licenciements des entraîneurs, quand tu les vires, tu les reprends et tu les vires et tu les reprends encore, et les joueurs quand tu vas chercher des joueurs internationaux qui avancent plus et que tu leur donnes des 300 000 euros de salaire,
complètement d'accord,
donc assume, dis-le, parce que à t'entendre Manu et comme Duga, ok, on coupe la tête de Vincent Labrune parce que le salaire, le ceci, le cela, il s'est trop avancé. Aujourd'hui, t'as l'impression que en fait, tout ce qu'il nous a vendu, c'est du rêve. Et puis là, on est vraiment pas bien. Mais ça ne suffira pas. Les présidents, ils seront encore là. Et sans leur mea culpa, sans leur autocritique, on n'avancera pas.
Des excuses. Vous voulez renouer le contact à Canal? Présentez vos excuses à Canal.
Ça, ils ne le feront pas. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, alors?
On est d'accord.
Si tu vires ton personnel, c'est pas la faute aux droits télé. Si tu vires ton personnel, parce que t'as mal géré ton club.
Exactement.
Quand ton club fait des bénéfices, tu mets de l'argent de côté. C'est pas quand ton club fait des bénéfices parce qu'il y a une période qui est propice, tu fanfaronnes, tu fais le barbeau, tu surpayes des mecs, et tu crois que ça va toujours durer. Et que tu crois que le soleil, il va y a toujours y avoir le soleil. Non, des fois, après le soleil, il y a la tempête.
Et ça, tu penses pas.
Mais un bon gestionnaire, c'est ça. Un chef d'entreprise, c'est ça.
Après, cette phrase, elle a un but simple, c'est culpabiliser Canal. C'est dire, regardez Canal, vous voulez nous laisser comme ça, c'est le pauvre secrétaire, etc., qui vont payer.
La culpabilisation sur Canal.
Tu te rends compte,
le fossoyeur du foot français.
Tu veux que je te dise aujourd'hui ce qu'il faut faire, Jean-Louis, si tu veux montrer. Tu dis, va, tu fais comme le rugby. Le rugby, ils ont signé pour 10 ans. Eh bien, tu signes pour 10 ans avec Canal Plus pour 500 millions. Tu trouves un deal et tu revois le modèle économique du football français. Au moins, les choses sont claires, t'es de visibilité. Au moins, les 10 prochaines années. Tu fais un truc qui est rentable pour tout le monde. Ouais. Que Canal puisse gagner de l'argent, que les clubs puissent gagner de l'argent.
Mais s'ils font ça, ils iront encore plus sur le trading. Ils iront encore plus sur le.
Ils le font quand même. Sur ce sujet.
Et ils essayent de carotter un nouvel investisseur. Ils font que ça tout le temps. C'est toujours le même fonctionnement. C'est toujours la même idée. Plus ils ont de l'argent et plus ils font des conneries et plus ils surpayent des joueurs.
Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, sachez qu'aujourd'hui, il y avait le passage du Havre devant la DNCG. Vous savez quand même.
Mais comment tu peux présenter la DNCG prochain bilan, sachant que tu sais pas ce qui va se passer.
T'en as qui travaillent bien quand même.
La consigne, ça a été de dire, vous mettez la même ligne que précédemment, mais ça veut rien dire sur le budget. Et donc, Le Havre, qui est quand même le grand perdant de l'histoire CVC. Parce que Le Havre a touché une somme modique pour CVC. Ils ont touché moins que s'ils étaient restés en Ligue 2.
Ouais,
et ils ont touché, en gros, la moitié que ce que Vincent Labrune a touché personnellement. Eux, ils ont touché 1,5 million, lui, il a pris 3 millions, dans l'histoire. Ah, si, bien sûr. Ça, c'est sorti depuis un moment. Et Le Havre se plaint. Jean-Michel Roussier a fait des recours, etc. Et là, la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale du Havre. Et Le Havre explique que on y était préparé, on savait très bien. Le trou qui nous manque, c'est l'argent que vous ne nous avez pas donné avec CVC. Donc on s'y était préparé. En plus, il y a la crise des droits télé. Donc on savait qu'on ne pourrait pas présenter un budget cohérent. Mais on a bossé en conséquence. On savait que notre masse salariale serait encadrée et on va faire face comme ça. Ils expliquent quand même qu'ils vivent la plus grosse injustice du moment.
Non, mais c'est une injustice. L'avantage du Havre, et c'est vrai, c'est qu'ils sont bien structurés.
D'acheter un joueur à 31 millions d'euros.
Oui, alors ça, j'allais le donner dans une seconde. Effectivement. Ouais. On va en parler dans le reste des infos.
Non, mais Le Havre fait partie des clubs, Jean-Louis, et c'est important de le dire. Alors, avec des moyens très limité. Oui. La preuve, c'est que quand t'es encadré, la masse salariale est encadrée par la DNCG, c'est pas bon, sauf que ils ont réussi à se maintenir avec CTP Gamo au-dessus de la tête. Et à l'arrivée, ils travaillent bien, tu vois, sportivement, ils ont bien structuré. Mathieu fait un gros travail, Mathieu Bonnemère, et ça rejaillit sur le club. Il y a d'autres clubs avec cette crise-là, peut-être qu'ils seront obligés de travailler comme eux.
Exactement. Les infos mercato dans une seconde à Marseille, à Lyon donc. Il reste de l'actu hors euro dans Rotten sans flamme. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC Rotten sans flamme Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On finit l'émission les 10 dernières minutes avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour, avec les dernières infos. Exactement. L'actualité.
D'ailleurs, n'oubliez pas Génération After, puis l'After avec Willy Sagnol ce soir. Dans le reste de l'actu, avant le mercato, puisque j'étais sur la DNCG, Bordeaux est passé devant la DNCG. On tremble toujours quand Bordeaux passe devant la DNCG. Bon, il n'y a pas vraiment de quoi être rassuré totalement. Juste, Bordeaux n'est pas rétrogradé en national. C'était un peu la menace qui planait. Il y a un sursis qui a été accordé à Gérard Lopez jusqu'au 9 juillet pour présenter les comptes à l'équilibre, parce qu'il attend l'arrivée d'un fonds américain pour un apport de 70 à 100 millions d'euros. Là, il manque 30.
Depuis septembre, il attend.
Ah, oui, voilà.
Depuis
septembre. Mais là, ils lui ont donné un petit sursis, donc c'est qu'il a dû montrer quand même quelques documents pour accorder ça. Rendez-vous donc le 9 juillet pour les Girondins de Bordeaux. Le mercato. Marseille ne retiendra pas Paul Lopez. Une info d'RMC Sport de Florent Germain. Donc le club n'est pas fermé à son départ. Il n'y a pas de décision définitive, mais on est plutôt côté départ parce qu'on peut faire une vente en cas d'offre correcte et parce que De Zerbi voudrait un gardien
pour, plus solide.
Un meilleur gardien. Voilà.
Il a pas tort. Là, c'est une bonne nouvelle.
Voilà. D'ailleurs, il y a des rumeurs, mais ça, on n'est pas forcément en mesure de les confirmer sur Ilan Meslier, le gardien français qui joue en Angleterre à Leeds. Voilà. L'OM, dans le sens des arrivées, est proche d'un accord avec Ismaël Koné. Florent Germain, qui commentait le match hier des Belges, avait commencé à nous en parler. Joueur de Watford, milieu de terrain axial. On parle de 12 millions d'euros pour ce transfert, plus des bonus. Il est canadien et donc il plairait bien à De Zerbi. Voilà. On attend de voir.
Ça, il faut lui faire confiance à De Zerbi. Voilà. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui décide de ça.
Voilà.
C'est le choix de De Zerbi. Donc, écoute,
Manu, spécialisé en première ligne.
C'est confirmé quand même la vue de De Zerbi à l'OM.
Ah oui, De Zerbi, oui, il est arrivé.
De Zerbi, c'est bon. Parce que ça me surprend toujours. En
fait. Il est arrivé avec 7 adjoints.
Voilà. Bon, Ismaël Koné, on attend de voir.
C'est vrai, 7 adjoints,
Sept adjoints.
Je crois qu'ils n'avaient pas d'argent, Marseille.
7 adjoints et 3 ans de contrat.
Non, mais 7 adjoints et un directeur sportif aussi.
Et un directeur sportif aussi.
L'OM s'intéresse par ailleurs à Mason Greenwood, l'ancien joueur donc de Manchester United.
Il est en Espagne, là.
Exactement, à Rétafé. Ouais. Il revient d'un prêt à Rétafé, il a 22 ans.
Et lui, il n'avait pas fait une connerie, lui?
Ah, c'est pas qu'il n'a pas fait une connerie, c'est qu'il a failli se retrouver en prison pour avoir tabassé sa copine.
On peut dire qu'il a fait une connerie, effectivement.
Oui, c'est plus qu'une connerie.
Il est viré de Manchester United. Il y a même eu les femmes de joueurs à Manchester qui se sont ralliées pour refuser son retour au sein du vestiaire.
Ah voilà. Oui. Et alors donc, il y a fait Dugat en parler. Lyon a mis 31 millions pour recruter, c'est nos confrères de l'équipe qui annoncent ça, le défenseur central qui est passé par la Ligue 1, Moussa Niakate, qui sort d'une saison à Nottingham Forest, qui avait brillé en Allemagne précédemment, 28 ans, donc 31 millions d'euros pour lui. Hein? Ouais, un contrat de 4 ans, visite médicale demain, a priori, avant de s'engager.
Manu, voilà.
Il t'a pas bluffé à Nottingham Forest?
Non.
Non.
Il m'a pas marqué, non.
Il a bluffé personne, hein.
Alors, 31 millions?
Ouais, 31 millions.
Alors, mais a priori. 28 ans, c'est même pas un jeune joueur, quoi, tu vois, c'est un contrat, non, c'est non, à perte, ça.
Bah écoute, c'est l'atelier de la défense maintenant.
Ouais. C'est Nottingham Forest. Apparemment, ils s'entendent bien, les deux présidents s'entendent bien, apparemment.
Ah bah là, ils doivent bien s'entendre même.
Alors après, a priori, il va à Lyon, mais attention maintenant, hein, le mercato de Lyon.
Il va finir à Botafogo.
Voilà, t'arrives dans le groupe Eagle. Et après, on voit ce qui se passe, hein, mais il y a des joueurs comme ça.
Ah oui, c'est comme le City Group.
Comment il s'appelle le joueur City Group. Mama Baldé va peut-être aller au Brésil. Almada, l'Argentin, va sans doute être recruté par Eagle Group. L'idée, c'est qu'il fasse un an et demi à Botafogo et qu'il aille à Lyon après. Voilà. Mais maintenant, c'est comme ça que ça se passe. On est recruté par un groupe et on voit après où on.
Baldé, tu m'as dit, Mama Baldé, ouais. Il va aller au Brésil.
Mais
quand ils vont le voir arriver, ils vont dire, mais les chaussures, comment tu les mets, les chaussures? Non, mais au Brésil, Mama Baldé.
Il faut qu'il y ait avec les chaussures, pas les boîtes.
Ah non, mais il va venir avec les claquettes, ouais, surtout.
Tu veux dire qu'il faut plutôt le diriger vers Molenbeek, lui?
Plutôt, ouais.
Dans la stratégie globale.
Moi, j'irais de l'autre côté, tu vois. J'irais plus vers l'Australie, tu vois.
Évidemment, le gros match hier de Kvaratskhelia fait qu'on s'intéresse de nouveau à son avenir. Alors, on en a déjà parlé sur rmcsport.fr, le PSG.
Oh là là, j'ai bien peur que le match du gars, tu le disais hier. Alors, ouais. Non, mais
il a pris 20 millions.
Non, mais il fait un match incroyable.
Alors, attends, je finis juste sur les infos. Donc, Kvaratskhelia, oui. Il est sur les tablettes du PSG. De Laurentiis, son président à Naples, a dit, mais il a un contrat. Il le dit depuis deux mois.
Ouais.
Je vois aucun problème pour lui. Dit De Laurentiis, il peut aussi y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sans l'autorisation du club. Si quelqu'un contactait le joueur sans y être autorisé, et quelqu'un qui présidait également le CA, on pourrait le rappeler à l'ordre. C'est Nasser Al-Khelaïfi.
Ouais. Il est bon dès l'ordre 10. Je l'aime bien, lui.
On parle d'un transfert à 100 millions. Hein. C'est...
Non, mais bon.
Enfin, il y a souvent eu des affaires entre Naples et le PSG ces dernières années.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu Ruiz, il y a eu Cavani. Hein.
Les trois de l'attaque.
Avait dit.
Ah oui, alors ça remonte un peu, ça, quand même.
Ouais, non, mais les relations, mais pour revenir à Lorenzi, sincèrement.
Lorenzi, c'est vrai.
Quand tu vois toutes les déclarations qu'il a fait sur Osimhen, comment ça s'est. Osimhen.
Pourquoi t'es bien dur là?
Ouais, franchement.
Osimhen,
okay, les gars. Ok, bah, Manu Deschamps. Ouais, ouais. Vas-y. Ouais. Allez, fais-nous
ça
une
dèche. Fais-nous
une dèche là. Allez, fais-nous une dèche. Allez, ouais. Vas-y. Allez, vas-y. Alors, Osimhen, à combien il était?
Osimhen. Mais la question, c'est est-ce que vous m'avez compris?
Mais moi, j'ai bien aimé le mouvement de. Le mouvement de. Comment tu dis, Kvaratskhelia?
Kvaratskhelia?
Ouais, bravo.
Bah oui.
Mais comment? Didier, il n'y arrive pas ça.
T'aurais pas dû le dire avant, Jérôme. Ça aide. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire sur Osimhen?
Bah, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration, le président de Naples. Il l'a fait à pas mal de joueurs.
Osimhen, c'est Eminem, non?
Oui, c'est ça.
Et donc, il me fait un peu rigoler quand il dit ouais, il y a des clubs qui contactent mes joueurs sans avoir l'autorisation du club.
Ouais. Comme si personne ne faisait ça. Non, mais là, c'est pour faire monter la. Mais pour faire monter le prix. Mais en fait, le problème à ça, c'est que je vais te dire, le PSG le veut.
Oui.
Et ça, ils se cachent pas, ils le veulent. Et ça va se finir à 150 millions, cette affaire-là.
Non, mais il faut faire attention, tu sais, à l'effet de mode.
Attends, mais tu rigoles, Jean-Louis. Ils ont mis 100 millions sur Colomouani.
80.
Non, avec les bonus, ça fait 100
faut
millions.
Faut faire attention à l'effet de mode, hein. Quand t'as un joueur qui flambe pendant une grande compétition, d'un seul coup, t'as pas de
club
qui arrive, il vient de surenchère.
C'est pas un mauvais joueur, on le voit à Naples et tout ça. Mais est-ce que le PSG a réellement besoin d'avoir un joueur qui, en plus, son côté préférentiel, c'est côté gauche, t'as Barcola qui a explosé côté gauche. Bah, et tu vas mettre 150 millions sur un joueur comme ça?
Alors qu'ils ont pas le droit télé?
Et, oui, bon. C'est vrai. Bon,
du côté du PSG, je pense qu'ils vont pas être touchés.
Sachez que Coman s'est entraîné normalement, torticolis.
Coman s'est entraîné normalement.
Donc, voilà. Il est disponible. Hein. Il peut jouer. Donc, c'est ça, t'es en train de nous dire.
Il pourra jouer lundi, oui.
D'accord.
Ah bah non, mais tu m'as donné la compo, Jean-Louis. Il jouera pas.
Bah, a priori, dans ma compo, il joue pas.
Quoique,
tu peux le mettre à la place de Dembélé. Bon, on a plus le temps, de toute façon. Ouais. On s'est bien amusé.
Est-ce qu'avec Coman, on roule sur les Belges?
Bah, c'est ce qu'ils disent les champions du monde 98.
Moi, je leur fais confiance.
Allez écouter le podcast à 18h. De 18h.
On est déjà en quart.
Génération After. Nicolas Jamin, bonsoir.
Salut Jean-Louis. Salut mes deux blonds préférés. Enfin, il y a un vrai, il y a un faux. Jérôme Roten, Manu Petit. Vous allez
écouter un faux.
Alors, le vrai, c'est Manu, le vrai.
Ah, ben non, excuse-moi, moi, je suis blond aussi. Hein.
Dans un instant, Génération After.
Blond cendré.
Génération After, on va bien sûr parler de ce duel à venir France-Belgique. Est-ce une bonne nouvelle pour l'équipe de France finalement? On aura un journaliste belge qui sera à nos côtés. Avis de Jimmy Brown ce soir, attention, il va envoyer. Ça sent la fin de règne pour Deschamps. 20h30, rendez-vous.
Intéressant.
Hein, travailler, aiguisé avec Jean-Louis Tour également notamment. Donc soyez là à 20h30. Et puis grosse page Mercato, Marseille, Lyon. Évidemment, Julien Laurent sera avec nous pour nous parler de ces joueurs de Première Ligue qui peuvent arriver chez nous. Voilà, notamment programme de Génération After Jérôme.
Nous, on fera un thème demain. Ça sera Antoine Varnier qui accusera quelqu'un. Parce que vu que Jimmy Brown fait des thèmes aussi,
il
est producteur, Jimmy.
Jimmy, la double casquette à la différence d'Antoine.
La différence, c'est que sur RMC, si quelqu'un a un bon avis, il vient le dire à l'antenne.
Bravo. C'est ouvert.
Peu importe sa fonction, Jérôme.
C'est le
ça, on a vu. Ça, c'est sûr qu'on a vu. Et ben, vous allez le voir à partir de 20h. Restez bien à l'écoute.
Encore un joueur qui veut rester
sur RMC.
Et nous,
on se retrouve demain avec de l'expertise et de l'expérience demain dans Rotten Sans Flamme à 18h. Il y aura beaucoup de beau monde, comme d'habitude, tout au long de la semaine de 18h à 20h. Rotten Sans Flamme ne s'arrête jamais. Et demain, on clôture cette magnifique semaine en route pour les 8e de finale de l'Euro. Bisous à tous, à demain.
RMC, 18h-20h.
Rotten Sans Flamme. Intégrale Euro. Retrouvez Rotten Sans Flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.